Vous êtes branchés sur la fréquence 9¾.
Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9¾. Je suis Jérémy.
Et je suis Marina.
La finale de la Coupe du Monde de Quidditch est terminée, avec l'Irlande qui s'en sort victorieuse à 10 petits points près. Il est donc maintenant temps de célébrer ça tous ensemble.
Mais la fête va vite tourner court, comme on va le voir. Parce que si le monde de la magie est rempli de merveilles, il a aussi sa part sombre et certains sorciers connus sous le nom de Mangemort vont bientôt faire leur apparition.
Pour nous accompagner dans la lumière et nous protéger de l'obscurantisme, nous sommes accompagnés sur cet épisode de notre auditrice Yasmine. Salut Yasmine, est-ce que ça va bien ?
Oui, coucou Jérémy, Marina, ça va bien, merci, et vous ?
Bah oui,
très
ça
bien,
va.
Merci.
Je crois qu'on est tous prêts et prêtes pour ce nouveau chapitre. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Yasmine, nous dire qui tu es dans ta vie moldue et quand est-ce que tu as découvert notre podcast ?
Que fais-tu ici ? Est-ce que tu as vu de la lumière et tu es rentrée ?
Exactement. Non, en fait, je vous connais... Bon, déjà, j'ai 31 ans, bientôt 32 ans. Dans la vie moldue, je suis psychologue et j'habite en Suisse. Et en fait, j'ai découvert votre podcast grâce à une personne qui fait des illustrations sur Instagram, Caro from Woodland. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est hyper cool. Ouais. Et en fait, elle a souvent fait des stories où elle parlait de votre podcast. Du coup, il y a un peu plus d'une année, j'ai commencé à vous écouter et j'ai plus arrêté. Après, je suis passée au podcast et là, je suis arrivée à la fin du podcast. Donc, il va falloir que vous fassiez vite plus d'épisodes, s'il vous plaît.
Bah, tu fais partie du retour, tu vois.
C'est ça.
Ok, ça fait plaisir. Bah, merci à cette Instagrammeuse / dessinatrice. C'est cool. Oui, ça me dit quelque chose, le nom... En effet. Et justement, bah, quand les épisodes sortent de façon normale, est-ce que t'as plutôt l'habitude d'écouter à chaque sortie ou tu te les laisses un peu de côté? Enfin, et dans quelles conditions tu les écoutes? Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est dans les transports? Ça, on aime bien savoir, comme le podcast est libre, c'est quoi tes petites habitudes à toi?
Alors, bah, du coup, j'écoute vos épisodes dès que je peux, depuis le moment où l'épisode sort. Du coup, en général, une fois que j'ai écouté tout ce qui était déjà fait, ben, il n'y en a jamais plus d'un à écouter, quoi. Puis, j'écoute souvent par petits bouts, pas forcément en entier. Et puis, en vacances ou à mes occupations un peu quotidiennes, plutôt à la maison. Voilà, je fais la vaisselle, je fais
ce
genre de choses pendant que je vous écoute. Voilà.
En tout cas, il est temps de refaire le match et surtout d'affronter les dangers qui nous attendent dans la forêt obscure de la Coupe du Monde. On y va.
C'est parti.
Harry Potter et la Coupe de Feu.
Chapitre 9. La marque des ténèbres.
Alors, notre joyeuse troupe quitte bientôt le stade et sur le chemin, Arthur demande aux jumeaux de ne pas dire à leur mère qu'ils ont parié de l'argent. Mais Fred répond qu'ils en ont pas l'intention parce qu'ils ont de grands projets en tête avec cet argent. Là, la situation où se trouve Arthur, c'est une situation qui lui arrive souvent, c'est d'être un peu dans la confidence avec ses enfants, surtout ses fils, et un peu de faire des mèches basses, que Molly soit pas au courant.
C'est parce qu'il a le rôle du parent cool, entre guillemets.
Ouais, c'est ça.
Arthur.
C'est ne le dites pas à votre mère, quoi. C'est une phrase qu'il dit assez souvent.
En plus, il serait mal placé parce que il fait quand même souvent des trucs cachés dans son garage. Il trafique sous le vent des trucs avec les objets moldus dans le dos de Madame Weasley, mais aussi du ministère. Donc, il serait mal placé pour critiquer ses enfants. Le malin.
Est-ce que c'est pas un enfant ? Est-ce que c'est pas un autre enfant de...
Un peu, ouais.
De la famille. C'est un peu ça, son profil.
Mais dis-moi, Harry, à quoi sert le canard en plastique?
Le canard, ouais. J'ai pas la réponse perso. Et là, je me suis dit aussi, ça veut dire que quand même, le projet de boutique de Fred et George, c'est quand même un projet assez anticipé parce que là, on est au début de la Coupe de Feu et ils ouvriront leur boutique bien après. On la verra pour la première fois au début du Prince de Sang-Mêlé. Donc là, on n'y est vraiment pas encore, et pourtant, ça travaille déjà, ils ont déjà... Enfin voilà, c'est, c'est déjà un projet, en fait, dans leur tête. Ils savent où ils vont. Et on l'a déjà dit, Fred et Georges, ils font un peu les troubles fêtes comme ça. Mais en fait, ils sont hyper organisés. Ils savent où ils veulent aller, quoi. Et donc là, c'en est un petit indice, même si le lecteur n'est pas censé être au courant. Mais en tout cas, maintenant, avec le recul, on sait que c'est un indice. Arrivé à la tente, Arthur accepte que tout le monde se serve une tasse de chocolat pour refaire le match avant d'aller se coucher. Mais quand Ginny s'écroule de sommeil, Monsieur Weasley demande à tout le monde d'aller se coucher, tandis que la fête bat toujours son plein à l'extérieur. Ça me fait penser à des souvenirs de festival.
Ouais.
Cette ambiance de camping, c'est la grosse fête à l'extérieur. Et là, en fait, t'es censé trouver le sommeil, mais c'est un petit peu compliqué.
T'imagines les Irlandais avec leur bière au beurre à la main.
Ouais.
Et là, d'un coup, j'ai une scène, j'imagine le micro de Quotidien avec leur mardi transpi.
Parce qu'il y avait transpi à la Coupe du Monde de Quidditch.
Merci, transpi. Pour ceux qui connaissent la ref. Et est-ce qu'ils finissent par montrer leurs fesses, les sorcières, à la caméra de Quotidien ou pas?
Mais toi, tu fais genre, tu connais les ambiances de festival? T'as déjà fait un festival en mode camping?
Non, j'ai
parce que pour te connaître un petit peu, je sais pas si c'est ton délire.
Non, le camping, non. J'ai testé 3 jours sous une tente et l'expérience m'a suffi. J'ai testé, j'ai vu, je recommencerai pas.
Et toi, Yasmine, est-ce que tu ferais du camping pour la Coupe du Monde?
Je sais pas, j'ai jamais testé le camping déjà, mais Coupe du Monde, je suis pas sûre. Peut-être pour un festival de musique ou quoi, ça serait peut-être plus mon style.
Après, comme on l'avait déjà dit, les sorciers, ils ont. Enfin, faire du camping version sorcier, c'est quand même pas la même chose parce que là, ils ont toute une maison. En fait, c'est une tente, mais en fait.
Ouais, mais attends.
500 mètres carrés là-dedans.
Il a une super tente parce qu'on lui a prêté la tente.
Ouais.
Mais après, je pense qu'il y a des tentes sorcières plus basiques selon tes moyens.
Oui. Bah ouais.
Je sais pas. J'ai l'impression qu'avec la magie, on peut un peu tout faire.
Ouais. Et à mon avis, il faut un petit peu de skill. Enfin, il faut peut-être savoir bien maîtriser ses sortilèges. Mais on peut faire une homemade tente.
Je pense que
si on s'en sort bien, une Hermione, elle est capable de le faire, par exemple, je pense.
Ça va de la Quechua au mobile home de luxe, je pense, les tentes sorcières.
La tiny house, pardon.
Ouais,
la tiny house.
Tiny house.
C'est ça.
Ouais, puis ça me fait penser, mais là, je crois que c'est on anticipe sur le début du chapitre encore d'après. Mais il est dit, par exemple, qu'il y a beaucoup de sorciers suite aux incidents qui vont avoir lieu là, cette nuit-là au camping. Il y a des sorciers qui vont faire des réclamations pour être remboursés parce qu'il y a des mange-morts qui vont mettre le feu, etc. Et j'ai un souvenir que mon Angus Fletcher, il déclare à l'assurance une énorme tente, genre une villa en tente, alors qu'il est dit qu'il avait juste une toile et 4 piquets, quoi, connaissant le personnage. Donc peut-être qu'il y a des... peut-être qu'il y a des sorciers qui sont un petit peu plus dans la précarité, mais en tout cas, c'est pas le cas des Weasley. Là.
Après, est-ce que la sorcellerie, c'est pas un peu comme les compétences dans le monde magique A priori, il y a certaines personnes qui peuvent construire une maison, tu vois, par eux-mêmes, avec différentes compétences, et d'autres non, comme nous, par exemple. Et finalement, est-ce que la sorcellerie, est-ce que tu ne peux pas développer certaines compétences en sorcellerie, notamment savoir, par la magie, construire des tentes de luxe, et donc, du coup, monnayer tes compétences en construction? Je ne sais pas si vous voulez...
Ouais, moi, je pense.
Si vous voyez où je veux en venir.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il n'y a pas l'entreprise de BTP magique,
ça,
tu vois?
J'étais sûr que t'allais
dire
ça. Bah oui, il y a forcément des maçons, oui. Enfin, des gens qui construisent des maisons. Par exemple, je ne sais pas si c'est officiel, si c'est un article Pottermore ou quoi, mais en tout cas, on a l'impression que le terrier, c'est une maison que les Weasley ont fabriquée eux-mêmes et qui tient par la magie.
Rafistolé, quoi.
Mais peut-être qu'il y a des sorciers qui sont professionnalisés là-dedans. Et en même temps, j'ai une image qui me vient en tête, et je crois qu'on en avait déjà parlé. C'est dans Les Animaux Fantastiques, les Aurores aux États-Unis, ils reconstruisent New York en 2 claquements de doigts, comme ça. Alors que c'est des Aurores, c'est pas des maçons. Donc, je crois qu'on s'était déjà demandé, est-ce qu'on peut être spécialisé en construction de maisons?
C'est Les Animaux Fantastiques, ça.
Oui, c'est Les Animaux Fantastiques. Mais par exemple, quand je prenais l'exemple d'Hermione tout à l'heure, parce que Hermione, elle est plus doués en sortilège que Harry et Ron, notamment elle est plus douée en plein de choses, mais notamment en sortilège, et elle sait faire des choses avec des sortilèges que Harry et Ron sont incapables de faire, en tout cas jusqu'à la 7e année de Poudlard. Donc oui, je pense que tu peux être plus ou moins compétent pour, par exemple, customiser une tente.
Parce que sinon, il n'y aurait pas d'échec aux examens si la magie c'était si facile que ça, en fait.
Ah bah oui, non mais oui, les sorciers sont pas tous égaux, quoi, avec la maîtrise de leur baguette. Et par exemple, Arthur, on parlait d'Arthur, peut-être qu'Arthur, il est super doué pour ensorceler des objets moldus, peut-être qu'il a un don pour ça, quoi.
Par exemple, Molly, elle est douée pour la magie d'intérieur, quoi.
Oui, par exemple, ouais.
Pour le coup.
C'est pas dit que Arthur, il sache cuisiner, quoi.
Même avec la magie,
ouais. Harry a du mal à trouver le sommeil, tandis qu'il repense à Victor Krum, qui l'a impressionné, et il a qu'une hâte, tester la feinte de Wonski sur son balai. Il s'imagine joueur professionnel, lui aussi, avec tout un stade qui scande son nom. C'est quelque chose d'assez adolescent, je trouve, ce moment-là. Je pense que tout le monde dans son adolescence, ou même encore aujourd'hui d'ailleurs dans la vie d'adulte, s'est imaginé d'être célèbre.
Qui ne s'imagine pas un concert devant des milliers de personnes sous sa douche, quoi. Au moins une fois.
Bah pas toi en tout cas.
Pourquoi?
Bah je sais pas.
Bon moi oui.
Ah bah oui. Bah oui.
Bah oui.
C'est un aveu. Non mais oui, on imagine bien parce que à chaque fois on le rappelle, mais là dans la coupe de feu, ils ont entre 13 et 14 ans, je trouve que c'est quelque chose de très adolescent ça, de se projeter pour un match. C'est la première fois qu'Harry voit des joueurs professionnels de Quidditch, et donc c'est naturel pour lui de se dire « Waouh, si, peut-être qu'un jour ça sera moi, on scandera mon nom et tout ». C'est très adolescent tout ça. Alors que ses pensées se sont transformées en sommeil, Harry est brusquement réveillé par Arthur, qui hurle à tout le monde de s'habiller rapidement et de sortir de la tente le plus rapidement possible. Au dehors, c'est la panique, les gens courent vers les bois et des détonations se font entendre plus loin dans le pré. Un groupe de sorciers masqués avance groupé en mettant le feu aux tentes et en faisant léviter dans les airs Monsieur Roberts, le propriétaire du camping, ainsi que sa femme et ses deux enfants. Madame Roberts finit bientôt la tête en bas, sa culotte à la vue de tous. Ron, qui est dégoûté du spectacle, murmure que c'est répugnant. Et alors voilà, là on est un peu dans la partie un peu tricky de chapitre, si vous avez lu déjà la Coupe de Feu mais il y a longtemps, ou si vous avez jamais lu les livres, peut-être que vous savez pas en fait ce détail parce que c'est pas dans le film, mais là on voit bien des mange-morts qui jouent avec une femme moldue et qui la entre guillemets la déshabille quoi à la vue de tous. Et moi je me suis demandé, mais c'est des mange-morts ou c'est des ivrognes qui harcèlent les femmes, ou est-ce que c'est pas la même chose? Enfin c'est assez choquant quoi.
Pas besoin d'être ivrogne pour harceler les femmes, malheureusement. Je pense qu'il y a des mange-morts qui ont tout un panel de compétences de harcèlement, de haine, de pratiques de haine, etc. Malheureusement. En fait, c'est pas étonnant hein, quand on sait qui sont les mange-morts, c'est pas étonnant qu'ils s'adonnent à ce genre de pratiques, quoi, malheureusement.
Ouais, je dis ivrogne parce que je crois que c'est Arthur qui dira un petit peu plus tard dans le chapitre qu'ils ont peut-être bu un coup de trop et
que c'était une soirée entre amis.
Ouais, voilà.
Mais ouais, je sais pas.
Ouais. Mais
on va se poser la question plus tard de leur motivation en fait dans ma partie.
Ouais. Puis là, il y a la femme et puis mais il y a aussi les enfants, quoi. Je veux dire, c'est hyper cruel et.
Oui, mais quand tu sais qu'ils ont perpétré des meurtres d'enfants, les faire léviter, c'est pas trop grave pour eux, quoi.
D'ailleurs, on va consacrer le petit after show pour cet épisode avec notre auditrice Yasmine. On va un peu parler de ça, on va un peu parler des mange-morts parce que c'est la première fois qu'on en voit. D'ailleurs, c'est dans ce chapitre-là que Harry va apprendre le terme même de mange-mort. Il n'en a jamais entendu parler. Et on va se poser un peu ce genre de questions. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Yasmine.
Je pense que c'est tout bon, vous avez tout dit.
Ouais, et puis on en parlera tout à l'heure. Une fois tout le monde regroupé, Monsieur Weasley mène les opérations. Il demande à Fred, George, Ron, Harry, Hermione et Ginny de se réfugier dans les bois, tandis que lui part aider les gens du ministère en compagnie de Bill, Charlie et Percy. Les lanternes du chemin sont éteintes et donc le chemin qui mène à la forêt est plongé dans le noir. Les gens trébuchent, crient et les enfants pleurent. Au bout d'un moment, Ron lui aussi trébuche et au même instant, la voix moqueuse de Drago Malfoy se fait entendre. Contrairement à la foule autour d'eux, Drago, lui, il semble calme, les bras croisés. Ron dit à Drago d'aller se faire voir, basiquement, et Malfoy rétorque qu'il devrait se dépêcher parce qu'il voudrait mieux pas qu'Hermione se fasse repérer, même si lui, bah, ça lui ferait bien rire de la voir s'agiter dans le ciel, la culotte à l'air aussi. Donc là aussi, il n'y a pas que les mange-morts cagoulés, il y a aussi Drago qui fait ce genre de remarques un peu obscènes, quoi. C'est... Je sais pas, ça vous paraît bizarre, vous
Ce chapitre,
de relire ça ou pas?
Ce chapitre, il est clairement angoissant parce que on s'imagine bien être avec toutes ces personnes effrayées dans le noir, entendant des cris avec des gens masqués. C'est malaisant. Et puis ouais, cette histoire, ça m'avait pas autant. C'est vrai que ça m'avait pas marqué ce passage parce que je l'ai oublié malgré le fait que je relis au moins une fois par an les livres. Mais ouais, c'est vrai que le passage de la culotte, qui est deux fois mention de mm-hmm. De harcèlement sexuel, hein, vis-à-vis des Moldus et potentiellement d'Hermione, c'est vrai que ça m'avait pas marqué et je trouve ça bizarre, même que Drago en fasse mention aussi. Ça me met mal à l'aise.
Pardon, en même temps, Drago, il fait un peu toujours ça. J'ai l'impression qu'il surjoue toujours le... Il s'identifie pas mal à sa famille, Mangemort, à son père, etc. Puis il surjoue le truc complètement. Et la suite de l'histoire nous montrera que quand il arrive vraiment à devoir faire des vrais choix, c'est pas du tout lui, quoi. Mais je pense que là, il joue le rôle, quoi. Il a 13 ans, il estime qu'être un Mangemort, c'est cool, hein, parce que son père est comme ça. Du coup, il se dit, hop, ils ont montré la culotte d'une Moldue, c'est drôle, quoi. Puis du coup, je vais en rire.
Ouais, il parle beaucoup, en fait. C'est un beau parleur, il se la raconte. Mais en vrai, une fois qu'il faut passer de la théorie à la pratique, il n'y a plus personne.
C'est clairement... Alors, je ne veux pas faire de la psychologie
surtout
de comptoir.
Surtout qu'on a une psychologue avec nous, donc attention.
Mais c'est vraiment... Drago, tu m'arrêteras, Yasmine, si j'ai tort. Mais Drago, c'est clairement l'enfant qui... suit aveuglément les opinions et le comportement de ses parents jusqu'à ce qu'il soit en âge vraiment de comprendre et de faire ses propres choix.
Je pense. J'ai pas forcément une réponse. Voilà, j'ai pas le profil psychologique de Drago Malfoy, mais
tu l'as jamais eu en patient.
T'as pas fait le profil psychologique de tous les personnages pour l'émission.
Je suis tentée.
Tu me déçois.
Ouais, puis en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de fans qui ont les films comme référence principale. Et même si Drago, dans le film, il a les mêmes caractéristiques que le Drago des livres, c'est un beau parleur, il se la raconte et compagnie, c'est le même personnage, quoi. N'empêche que dans le film, jamais de la vie, ils auraient gardé cette réplique dans le film. C'est très difficile d'imaginer Drago dire à Hermione « Je te verrai bien la culotte à l'air » parce que t'es une sorte de bourbe, quoi. Les films ont tendance à polisser un peu ce qui se passe dans les livres. Et là, c'est une petite piqûre de rappel que, waouh, c'est un peu chaud quand même. Ça dépasse la haine anti-moldu, anti-némoldu. Ça va un peu plus loin que ça, parce que là, on est dans l'obscène, en fait.
Tout à fait.
Le ton monte davantage lorsque Drago insulte Hermione de sang de bourbe. Hein. Ça arrive au bout d'un moment, forcément. Mais Harry riposte en suggérant que ses parents, à lui, à Drago, doivent sûrement faire partie du groupe cagoulé qui sème la panique. Ce que Drago avoue presque à demi-mot. Et là, je me suis posé une question, parce que ça fait aucun doute que Lucius en fait partie. Mais est-ce que sa mère, est-ce que Narcissa en fait partie, à votre avis?
Je pense pas.
Avec tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il n'y a pas que des hommes sous les cagoules, là?
Ouais.
C'est pas parce que c'est une femme hein, que je dis qu'elle y est pas.
Ouais.
Je pense pas. Je pense qu'il y a des femmes, certainement, sous ces cagoules.
Oh, il y aurait eu Bellatrix si elle n'avait pas été emprisonnée à Azkaban, ça, j'en suis persuadé.
Sans cagoule, d'ailleurs.
Ouais, elle, il n'y a aucun problème. Mais ouais, alors il y a ce truc-là de ce qu'on a dit avec Madame Roberts, voilà. Mais globalement, c'est vrai que les Mangemorts sont plus des hommes. On pourra en reparler à l'after show ou pas. on a assez peu de femmes finalement, mais surtout sur le cas de Narcissa, c'est un cas intéressant parce que c'est pas vraiment une mange-mort. Et Drago, bah, comme je disais, il avoue à demi-mot que ses parents y sont peut-être. Voilà. Lucius, ok, mais Narcissa, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Yasmine, je pense pas qu'elle soit là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle cautionne?
Moi, le mouvement des mange-morts, j'imagine vachement un mouvement assez sexiste quand même. Où la place des femmes, elle est bien particulière dans la hiérarchie. Je pense qu'il y a une bonne énergie machiste dans les mange-morts.
Bah, en vrai, à part Bellatrix, on a un autre exemple ou pas de véritable mange-mort femme? En tête, j'en ai pas là.
Moi non plus. Mais il doit y en avoir. Je pense que si on cherche. Oui, bah il y a. Comment il s'appelle les frères et sœurs qui ont.
Ah oui, oui, Alecto. Amicus et Alecto.
Et le nom de famille, je sais plus, Caro.
Caro, ouais.
Voilà, il y a eux.
Ah ouais, bien vu. Il y en a une autre.
Après, la figure vraiment féminine qu'on a en tête des mange-morts, c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage, entre guillemets, parce que du coup, elle est représentée comme une hystérique. Vous voyez ce que je veux dire?
Bellatrix, tu veux
ouais.
dire?
Ouais.
Complètement hystérique. Quoi.
Complètement hystérique. Et hystérique, la seule femme qui est présentée, et ouais. les hommes un peu plus calmes et un peu plus posés, entre guillemets.
En plus, ça te donne l'impression, je crois que dans les frères et sœurs, je crois que c'est Alecto, la sœur. Il me semble que dans le chapitre des reliques de la mort, elle est beaucoup plus vindicative que son frère, il me semble. Je ne sais pas ce que ça raconte, mais effectivement, je pense que de toute façon, c'est un milieu beaucoup plus... milieu, je ne sais pas si on peut dire milieu, un groupuscule beaucoup plus masculin que féminin, ça c'est certain. Et peut-être que là, ce passage-là avec Madame Roberts, ça le prouve quelque part, parce que si ça avait été un groupe masculin, enfin, majoritairement féminin, est-ce qu'il s'amuserait à faire ce genre de choses? J'en suis pas très sûr, honnêtement. Harry, Ron et Hermione ne rentrent pas dans le jeu de Malfoy et ils finissent par s'éloigner, tandis que ce dernier conseille à Hermione de bien se cacher avec, je cite, sa grosse tête mal coiffée. Donc on est sur les attaques sur le physique, grand classique, la totale, quoi. Merci Drago.
Best of Malfoy.
The best of. Avec tout ça, au milieu de la foule, le trio a perdu la trace de Fred, George et Ginny. Une fille aux cheveux bouclés vient alors à leur rencontre et elle leur demande où se trouve Madame Maxime. Voyant que Harry, Ron et Hermione n'y comprennent pas, la fille s'éloigne et Hermione leur explique que c'est sûrement une élève de Beauxbâton, l'école de magie française. Là, je me suis demandé, mais ça veut dire qu'il y a une sortie scolaire, du coup, qui a été prévue en plein été pour la Coupe du Monde au Royaume-Uni?
Non, c'est juste une Française. C'est une Française qui est là et puis elle leur.
Ouais, mais elle demande Madame Maxime.
Que. Ah!
Bah ouais.
Je sais pas. Ouais.
Ça, en fait, ça donne l'impression qu'il y a un groupe de Beauxbâton qui sont accompagnés par Madame Maxime, en fait.
Peut-être, oui.
C'est.
Peut-être colonie de vacances l'été.
Une espèce de colonie, ouais. Alors que c'est pas le cas à Poudlard, tu vois. Dumbledore, il est pas là. D'ailleurs, on en a parlé au dernier chapitre. Dumbledore n'est même pas là du tout. Alors que là, on sait qu'au moins Madame Maxime était présente, quoi. Voilà, je me suis posé cette question-là. Puis c'est bizarre parce que, du coup, j'ai été vérifié. C'est pas très clair dans la traduction française, mais par contre, dans le texte en version originale, vraiment, cette fille, elle arrive, elle leur parle en français direct. En fait, si Harry, Ron et Hermione, ils comprennent pas, c'est parce qu'elle parle français, quoi. Et je me dis, c'est bizarre quand même parce qu'elle est en Angleterre. Elle est dans un pays étranger et elle va les voir, elle leur parle français et elle est. Ça la saoule qu'ils comprennent pas, mais elle est pas dans son pays, c'est un peu bizarre.
Ah, mais c'est la panique, je pense.
Ouais, je pense que c'est la panique. On va dire ça. En tout cas, c'est un beau moyen de présenter avant l'heure Madame Maxime. En tout cas, de citer son nom, c'est quelque chose
et
que
J.K.
aime. Ouais, voilà. C'est quelque chose que J.K. aime bien faire, les petits effets d'annonce. C'est juste une ligne de dialogue et en fait, ça va avoir une importance capitale plus tard. Ron allume sa baguette comme l'a fait Hermione un peu plus tôt. Harry s'apprête à faire la même chose, mais il se rend compte que sa baguette n'est plus dans sa poche. Hermione suggère qu'elle est peut-être tombée, et Harry se sent pas rassuré du tout d'être sans baguette dans un moment dangereux comme celui-là. À ce moment-là, Winky, l'elfe de maison, sort des broussailles, et lorsqu'elle les voit, elle couine qu'il y a des mauvais sorciers dans les parages, et des gens qui volent très haut et qu'elle a peur. Elle s'éloigne alors entre les arbres d'une démarche étrange comme si elle essayait de retenir une force qui la pousse en avant. Ça m'a fait penser quand même à quelque chose, ce passage avec Winky. C'est quand même assez fou la coïncidence que Barty Junior vole la baguette de Harry dans le stade. C'est quand même pas banal, tu vois, que ça soit la baguette de Harry Potter. Alors voilà, après, c'est comme ça, c'est l'histoire. Puis on pourrait dire que c'est parce qu'il se trouve dans la loge officielle et que Barty aussi, mais voilà. Et c'est encore pire dans le film, parce que comme dans le film, on en a un petit peu parlé au dernier épisode, ils ont supprimé Winky. Il n'y a donc pas l'histoire de complicité avec Barty, le père. Ce qui implique en fait Barty Junior s'est échappé d'Azkaban sans que personne le sache, ce qui ne fait aucun sens. Hein. Mais on va pas, on va partir de ce postulat du scénariste de la Coupe de Feu. Barty Junior en fait s'est échappé, personne s'en est rendu compte. Et dans le film, il se retrouve presque face à face avec Harry en fait, sans le savoir. Donc la coïncidence, elle est encore plus folle dans le film. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, parce que comme ils ont voulu supprimer Winky, l'elfe, je trouve que c'est quelque chose d'assez incohérent que pendant toute une année, il y a un mangement qui est disparu d'Azkaban sans que personne s'en le remarque. Pour moi, ça fait pas trop de sens, mais passons. Le comportement de Winky surprend pas trop Harry, parce qu'il avait déjà vu plus ou moins les mêmes bizarreries chez Dobby, qui lui se donnait carrément des coups. Ce qui fait monter la colère d'Hermione parce que c'est de l'esclavage pur et dur, la preuve avec Monsieur Croupton qui a forcé son elfe à monter tout en haut des gradins alors qu'elle a le vertige. Mais Ron contre-argumente en disant que bah les elfes ils aiment bien obéir aux ordres et que bah ça les rend heureux en fait de faire ça. Ça va être le début d'une longue querelle entre Ron et Hermione au sujet des elfes de maison dans ce livre. Ça va revenir très souvent. On n'est pas sans en reparler. Tout en continuant leur chemin, Ron jette des regards inquiets vers Hermione et Harry se demande si elle était bien plus en danger qu'eux, comme leur a dit Drago un peu plus tôt. On est d'accord quand même, parce que je me suis posé cette question-là aussi, on est d'accord que c'est impossible pour les Mangemorts de détecter un émoldu.
Je pense pas. Ouais, c'est pas possible. D'ailleurs, plus loin dans l'histoire, il y a une liste, il me semble, non?
Oui, c'est ça. C'est que quand le ministère est corrompu et qu'il a basculé sous Lord Voldemort, ils font des interrogatoires pour savoir, c'est des faux interrogatoires, c'est une fausse justice, mais n'empêche que c'est pas évident, enfin ils peuvent pas juste en scannant comme ça, t'es un émoldu. Il faudrait que quelqu'un connaisse la personne avant. Alors après, Hermione pourrait se faire détecter notamment par Lucius Malfoy par exemple,
et puis par le biais d'un leak d'information de Poudlard, parce que quand ils vont chercher les jeunes sorciers et sorcières pour leur première rentrée, ils feront une enquête pour savoir où ils sont exactement et s'ils viennent d'une famille moldue.
Ouais.
Donc est-ce qu'il peut y avoir un leak de données aussi
Oui. le Muggle Week, Muggle Leak. peut-être. Tout peut arriver. Là, je me dis, dans ce contexte précis de ce groupe de mange-morts qui fout la zizanie pendant la Coupe du Monde, en fait, le seul moyen d'attaquer des Némoldus, c'est en fait de les reconnaître. On est d'accord.
Enfin, oui.
Faudrait que Hermione se fasse reconnaître, ce qui est franchement pas évident, quoi. Donc, est-ce qu'elle est vraiment plus en danger?
Après, c'est facile de la reconnaître, tu vois. Ouais. Deux gamins, Harry qui est quand même assez reconnaissable, avec son meilleur pote, Weasley, qui est super connu, notamment avec sa coupe de cheveux qui est bien reconnaissable, enfin sa couleur de cheveux, donc c'est facile de la repérer aussi.
Mais d'ailleurs, on ne sait pas trop, dans cette nuit-là, si les Mangemorts ont attaqué d'autres personnes que les Moldus du camping. On ne sait pas s'il y a eu d'autres victimes, on sait qu'ils ont brûlé des tentes, mais... Est-ce qu'ils ont essayé de s'attaquer à d'autres personnes? Ça,
je pense que oui, parce qu'ils se sont peut-être pas formalisés de si les tentes étaient vides ou pas.
En cherchant Fred, George et Ginny, le trio tombe sur des gobelins qui se disputent au sujet d'un sac d'or, sans être le moins du monde perturbé par ce qui se passe un peu plus loin. Il tombe bientôt aussi sur une lumière argentée qui se révèle être en fait trois Vélanes entourés d'un groupe de sorciers qui se livrent à un combat de coq ridicule, les uns et les autres se vantant d'être tueurs de dragons ou chasseurs de vampires. Harry pouffe de rire en reconnaissant Stan Rocade, se vanter de devenir bientôt le plus jeune ministre de la magie. Plusieurs petits trucs ici. Déjà sur le cas de Stan Rocade, c'est intéressant qu'on le voit à ce moment-là, parce que rappelez-vous, dans le tome 6, le ministère l'accusera d'être un mange-mort, etc. Alors que Dumbledore et Harry, notamment, ils plaideront sa cause. Et en fait, ici, c'est déjà en fait un indice que effectivement, c'est pas un mange-mort, parce que si c'était un mange-mort, il serait cagoulé et pas au milieu des Vélanes à dire n'importe quoi.
Il aurait pu devenir un mange-mort après.
Il aurait pu devenir un mange-mort après, ouais. Un an après.
Ouais.
ouais. Après, c'est quand même évident que Stan Rocade n'est pas un mangement. Mais bref. Et aussi, les gobelins sont pas là par hasard. Mais je crois qu'on va croiser un certain Ludo Verpé un petit peu plus loin, donc on pourra peut-être en reparler. Hermione est outrée quand Ron s'approche du groupe et hurle au Vélan qu'il a inventé un balai qui peut voler jusqu'à Jupiter. Avec l'aide d'Harry, elle éloigne Ron des Vélanes et tous trois reprennent leur route. Et là, je me suis dit, ça doit pas être facile quand même le quotidien d'une Vélane, parce qu'en gros, c'est se faire harceler puissance 1000 par tous les hommes, en fait. Ça doit être...
Mais pas tous.
Ouais, vas-y, Yasmine.
Pas tous, justement. Par exemple, je me suis posé la question, d'ailleurs, je sais pas si, qu'est-ce que vous en pensez, mais par exemple, Harry, il part pas en courant en disant n'importe quoi. Donc, c'est pas tous les hommes, vraisemblablement.
C'est vrai, t'as raison.
On en a discuté.
Autant victimes du charme des Vélanes.
Ouais, justement, ouais, on en avait
discuté.
Est-ce
que c'est une question d'hormones, en plus, quand ils sont adolescents? Est-ce que certains adolescents sont plus touchés que d'autres? On a eu ce débat dans le précédent épisode, ouais.
Donc, clairement, Ron est plus touché qu'Harry, en tout cas, à ce moment-là. C'est vrai qu'on va le voir, Fleur de la Cour lui fait beaucoup plus d'effet qu'à Harry, ouais. Ah ouais. Mm-hmm.
Ouais, Hermione, il est vachement cœur d'artichaut, quoi. On va le voir ensuite avec comment elle s'appelle, sa première copine.
Lavande Brown.
Oui, voilà.
Ah, Ron, pardon.
Ouais, Ron. Ron. Ouais, il est un peu plus sensible. Il s'intéresse plutôt, j'ai l'impression, qu'Harry.
Il est plus porté sur la chose.
Ouais,
dire.
Femme. Ses hormones le travaillent un peu plus.
Aux grandes dames d'Hermione.
Et ouais.
Parce que, ouais, si Hermione, c'est la meilleure d'elle, c'est parce que peut-être c'est Ron. Peut-être qu'elle s'énerverait moins si c'était à Harry. Et là, je me suis posé une autre question, vous allez vous moquer de moi. Hein. Et vous allez dire, Jérémy lit trop le texte. Mais cette histoire de vol jusqu'à Jupiter, je me suis posé quand même cette question. Est-ce que les sorciers, ils voyagent dans l'espace?
Est-ce que la...
Merci Yasmine. Parce que là, franchement, c'est super intéressant. Est-ce que la magie permet aux sorciers de voyager dans l'espace de façon beaucoup plus facilement que les moldus? Est-ce qu'ils sont intéressés par ça? Si oui, est-ce qu'ils ont les moyens d'explorer?
Ils n'auraient pas l'électricité, mais ils voyageraient dans l'espace.
Ouais, mais ils ont la magie. Je sais pas.
Est-ce que, bizarrement, même avec la magie, j'ai l'impression que les sorciers sont beaucoup plus terre à terre, s'intéressent beaucoup plus à leur environnement, sur le moment présent et ce qu'ils ont devant leurs yeux malgré tout, que par rapport aux moldus qui s'intéressent un peu à l'univers, un peu plus haut qu'eux en fait. Je sais pas.
Mais en même temps, ils ont des cours d'astronomie, ils ont des cours d'astrologie, ils s'intéressent aux étoiles, ils s'intéressent aux astres.
Ouais, mais dans leur signification et plus dans le côté spirituel.
Peut-être moins dans l'exploration, tu veux dire. Genre marcher sur la Lune, ça les intéresse pas, en tout cas moins que les moldus.
Est-ce qu'ils auraient un intérêt?
Ah, c'est marcher sur la Lune. Moi, tu me demandes oui ou non, tu veux marcher sur la Lune? Ouais, je veux bien voir ce que ça fait, quoi.
On explore l'univers dans un but scientifique, un but de colonisation. Donc, est-ce qu'ils auraient... Il n'y a pas vraiment de science, j'ai l'impression, chez les sorciers, de recherche scientifique.
Ouais, peut-être moins que les moldus, c'est vrai.
C'est peut-être un autre style de recherche. Quand on prend la mère de Luna, par exemple, est-ce que c'était pas un peu une scientifique pour qui ça a mal tourné, mais c'était pas la version sorciers, des scientifiques, par exemple.
Et du coup, toi, Yasmine, tu penses qu'ils voyagent sur d'autres planètes ou pas ?
Je sais pas. Je me suis posé la question, mais j'ai pas de réponse. Je me suis juste dit, imaginons que c'est le cas et que, genre, ça fait bien longtemps avant les Moldus qu'ils sont allés sur la Lune, ils ont dû bien se marrer quand il y a eu le premier pas pour l'humanité, etc.
J'aime bien penser ça.
Ce serait tellement drôle, en fait.
J'aime bien penser que il en suffit d'un ou deux et ils y arrivent. Ça se trouve, ils ont déjà été vraiment à Jupiter. Il suffit d'un sorcier fou pour y arriver, en fait.
Mais la question, c'est est-ce que les sorciers... Je pose une question, on n'aura pas la réponse. Est-ce que les sorciers savent que notre atmosphère est exceptionnelle par rapport... Il n'y a pas d'atmosphère respirable sur les autres planètes. Est-ce qu'ils sont au courant de ça ? Est-ce qu'ils sont au courant de la gravité ? Il n'y a pas de gravité sur les autres planètes.
C'est vrai que scientifiquement parlant, ils ont l'air plus ignorants que nous. Hein.
C'est ça ?
Ça, c'est clair. On est. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ils sont un peu plus au Moyen-Âge que nous. Quoi, hein.
Est-ce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'eau, pas de vie telle qu'on la connaît sur d'autres planètes ?
Ouais. Dans ce cas-là, peut-être que c'est des chercheurs fous, mais ils ne sont pas assez préparés, ils n'ont pas assez lu les recherches, les connaissances moldues, et peut-être qu'ils sont décédés à essayer de voler trop, emballer. Ça ne te rappelle pas une scène qu'on a vue récemment, ça ? Si, par exemple, aller emballer jusqu'à Jupiter.
What we do in the shadow.
On regarde une série qui s'appelle What We Do in the Shadows. Alors, c'est pas des sorciers, c'est une espèce de faux documentaire comique sur des vampires. Et voilà, et dans la dernière saison, il y a un vampire qui justement se pose la question, en fait, jusqu'où je peux voler, en fait. Et la réponse, c'est quand même assez loin. Hein. Ouais. c'est problématique. Hein. Pour le coup, les vampires dans cette série, ils peuvent voyager dans l'espace, hein, quasiment. Bon, pour revenir au chapitre. Alors que Harry, Ron et Hermione atteignent le cœur de la forêt sans personne aux alentours, Ludo Verpé, tiens, on parlait de lui tout à l'heure, il fait son apparition, l'air tendu. Il leur demande ce qu'ils font ici et il lui explique ce qu'il se passe alors dans le camping. Verpé s'affole et il transplane immédiatement. Hermione, elle est choquée de voir à quel point il est à la ramasse, mais Ron, lui, il fait remarquer qu'il a quand même été un grand batteur dans sa jeunesse. Et là, bah, je parlais de lui tout à l'heure, c'est marrant de voir comment Harry, Ron et Hermione, ils tombent sur des personnages qui vont être importants plus tard dans l'histoire. Les élèves de Beauxbatons, comme on l'a dit, les Vélan, ça introduit déjà Fleur de la Cour et compagnie. Et les Gobelins et Ludo Verpé, parce qu'en fait, on voit les uns après l'autre, mais c'est la même histoire, parce qu'ils sont liés par une histoire d'argent. Et ça va faire dans le livre, en tout cas, ça c'est peut-être quelque chose, mais je crois que je l'avais déjà dit... dans la fréquence, Ludo Verpé, dans le livre Harry Potter, la coupe de feu, c'est le suspect idéal, en fait. Si on essaie de réfléchir un petit peu, on a l'impression que c'est lui qui est le mange-mort et qui a poussé à Harry à se retrouver face à Voldemort. Enfin, en tout cas, toutes les planètes s'alignent pour que ça soit Ludo Verpé, alors que non, en fait, la réponse est dans ce passage. En fait,
c'est comme si la saga avait bien été écrite.
Ouais, c'est dingue. Fou, ça. C'est bien écrit, c'est fou. Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, comme je disais, soit qui ont lu les livres il y a longtemps, soit qui ne les ont jamais lus. Et ce personnage, en fait, qui n'est pas du tout dans le film, il est hyper important dans le livre parce qu'il est le suspect idéal.
Et même Crumb, tu ne l'as pas cité, mais ça introduit Crumb, la Coupe du Monde. En fait, c'est le contexte parfait pour naturellement présenter tous ces personnages qui vont être importants pour l'histoire.
Mais tout est là, en fait. Tout est là, parce qu'on peut très bien s'imaginer Karkaroff sous une cagoule, en fait. Tout le monde est déjà là, en fait. Tous les personnages sont déjà rassemblés, mais tu sais, comme on l'a dit, en fait, J.K. Rowling écrit souvent les Harry Potter comme des livres à enquête, en fait.
Des romans policiers.
Des romans policiers, ce sont des romans policiers, en fait. Là, tous les suspects sont là, tous les personnages sont là, et en fait, ensuite, c'est une partie d'échec, hop, les pions se déplacent, machin, et en fait, la réponse, elle est cachée, on a eu des indices, faut juste remettre le puzzle dans le bon endroit.
Mais cette saga, elle mériterait d'être beaucoup plus connue. Parce que c'est vachement bien fait, quand même.
C'est pas assez connu. Franchement, Harry Potter...
Heureusement qu'il y a notre podcast, quand même, pour faire comprendre aux gens. Ouais.
Franchement,
pour leur faire découvrir.
Il y aurait de l'argent à se faire.
Bah ouais.
Il y aurait de l'argent à se faire, c'est dommage.
C'est une saga sous-estimée.
On pourrait même en faire un podcast, je pense. Alors qu'ils sont assis à attendre, Harry s'imagine Arthur en train de capturer Lucius Malfoy sur le fait. Ron aime beaucoup cette pensée, d'autant que ça ferait sûrement fermer le clapet de Drago. Hermione, elle, s'inquiète pour les moldus, mais Ron la rassure en lui disant que les employés du ministère vont parvenir à régler la situation. Moi, je suis un peu comme Hermione, c'est quand même dingue de faire ça à ce moment-là, pendant la Coupe du Monde, parce que là, ils vont s'en sortir. Alors qu'en vrai, en vérité, c'est un tout petit groupe contre plein de sorciers, quoi. C'est quand même fou de faire ça, mais je rejoins Hermione à ce moment-là. Mm-hmm. Harry, Ron et Hermione se retournent brusquement. Ils ont tous les trois entendu quelqu'un approcher. Harry demande s'il y a quelqu'un, mais aucune réponse. Puis soudainement, dans l'obscurité, une voix d'homme crie « Mousse mordre !» avant qu'une forme verte s'élève dans le ciel. Harry croit d'abord que ce sont des farfadets qui forment ce qu'il voit, c'est-à-dire une tête de mort avec un serpent en guise de langue.
Les farfadets alcoolisés, ils ont craqué.
Allez, tout le monde est alcoolisé, tout le monde fait n'importe quoi. Mais cette apparition fait immédiatement pousser des hurlements aux alentours. Hermione attrape Harry qui se demande ce qu'il se passe. Elle lui explique que c'est la marque des ténèbres, le signe de Voldemort. Tous trois s'enfuient en courant, mais ils sont immédiatement encerclés par une vingtaine de sorciers qui lancent tous un stupéfix vers eux, juste avant que Harry hurle aux deux autres de se baisser.
Les réflexes d'Harry.
Ouais.
Bah ouais.
Je sais pas si tu voulais en parler, Marina, parce que là, c'est la transition avec ta partie. Mais c'est quand même fou qu'ils lancent tous un stupéfix 20 à la fois, quand même. Parce qu'ils transplanent, alors sortent la marque des ténèbres vient d'arriver.
On va en parler.
Ah ouais, non mais vas-y.
Tous.
Je suis excité, là. C'est la marque des ténèbres. C'est le titre
c'est
du chapitre.
C'est vrai que ce chapitre, oui, t'as beaucoup de choses à dire.
Ah, mais j'ai toujours beaucoup de choses à dire.
Tu devrais lancer un podcast aussi.
C'est le problème. Ouais, faudrait que je fasse mes after-show à moi.
Heureusement qu'Harry a eu le réflexe de mettre à terre ses amis parce qu'une vingtaine de sorciers se mettent à lancer des stupéfixes, comme tu l'as dit, en leur direction. Alors, heureusement, quand même, qu'ils visent mal ces vingtaines de sorciers, c'est ce que je me suis dit, parce que même en se baissant, ils arrivent à éviter les stupéfixes quand même de gens du ministère qui sont compétents, et les stupéfixes vont en direction des arbres. La voix de Monsieur Weasley se fait entendre alors qu'il vient de se rendre compte que c'est son fils qui se tient là. C'est alors que les éclairs de lumière rouge s'arrêtent.
Et justement, enfin, comme je disais, déjà, un, oui, ils savent pas viser. Puis de deux, enfin, c'est complètement inconscient de lancer un stupéfix 20 à la fois, alors qu'ils viennent juste de transplaner, ils viennent juste d'arriver là. Ça pourrait être n'importe qui se trouve là.
Ouais,
et la prof, c'est
que...
n'importe qui. Enfin, c'est Harry, Ron et Hermione, comme d'habitude, mais ça reste n'importe qui, c'est pas les coupables.
Je pense que c'est la marque des ténèbres, c'est la panique, et eux aussi se laissent...
Ouais.
Se laissent, comment dire, contaminés par cette panique et sont persuadés qu'ils sont face à des mange-morts, quoi.
En plus, je me demande si on peut pas mourir d'un stupéfix. Parce que j'ai souvenir dans l'Ordre du Phénix, quand McGonagall, elle se prend plusieurs stupéfix en même temps, il y a cette crainte du fait de son âge, que bah, peut-être se prendre 3-4 stupéfix, peut-être que ça peut être létal pour elle. Mais là, on parle de 20 stupéfix. Donc même si ce sont des jeunes en pleine santé, enfin, je sais pas, je trouve ça inconscient, moi, de la part du ministère.
En tout cas, peu importe pour Barty Crouppton si c'est Ron, Hermione ou encore Harry qu'il visait à l'instant. Le visage transformé par la rage, il est persuadé que ce sont les trois jeunes sorciers qui ont déclenché la marque des ténèbres. Et peu importe le fait que les intéressés démentent. Plus rationnel que Barty Crouppton, Monsieur Weasley demande d'où est sortie la marque des ténèbres. Hermione, tremblante, lui répond qu'il y avait quelqu'un derrière les arbres qui a prononcé une incantation. Et il n'en faut pas plus pour Crouppton d'être persuadé qu'elle en sait suffisamment pour avoir lancé elle-même le maléfice. Mais il est quand même bien seul dans son délire parce que les autres sorciers pointent alors leurs baguettes en direction des arbres. Amos Diggory, que j'adore dans ce chapitre, pense qu'il y a des chances que le ou la coupable ait été stupéfixée. Bien décidé et malgré les mises en garde de ses collègues, Amos fonce tête baissée à travers la clairière. En effet, le sort de stupéfaction a bien touché quelqu'un. Enfin, plus précisément, une créature couverte d'un torchon à vaisselle. Diggory amène alors Winky évanoui au pied de Crouppton. Les sorciers se mettent tous à fixer Crouppton. Mais lui, il ne l'entend pas de cette oreille et il va vérifier par lui-même l'endroit où Diggory a trouvé son elfe. Monsieur Weasley rappelle à Amos Diggory qu'un elfe ne peut pas jeter un tel sort, il lui faudrait une baguette magique. Mais Amos lui montre la baguette qu'elle avait à la main. Et un elfe en possession d'une baguette magique viole l'article 3 du code d'utilisation des baguettes magiques. Aucune créature non humaine n'est autorisée à détenir une baguette magique. Alors j'ai cherché sur le wiki notamment, et c'est dommage parce que J.K. Rowling, elle a jamais écrit sur le code d'utilisation des baguettes magiques. Et je trouve que ça aurait été intéressant de connaître les autres articles. Alors je pense qu'un des articles, c'est un peu comme les 10 commandements. Tu ne donneras point la mort avec ta baguette. Tu ne voleras point avec ta baguette. Je pense qu'il y a des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels pourraient être les autres articles du code d'utilisation de la baguette?
Ah, parce que là, on parle de quelque chose d'assez précis. C'est le code d'utilisation des baguettes magiques, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, quels autres articles?
Tu ne tortureras point avec ta baguette.
Ouais, je pense que c'est des choses comme ça. C'est une sorte de... Ouais.
Ouais, je serais curieux de savoir...
De bonne conduite.
combien d'articles ça représente, ouais.
On sait qu'il y en a au moins 3.
Ouais. Et je crois que sur l'utilisation des baguettes, je me demande si c'est pas un petit peu plus détaillé dans les Animaux Fantastiques. Je crois que Norbert Dragono, il explique un peu notamment comment ils ont différencié... Les animaux fantastiques, des êtres et des animaux. Et je me demande si on fait pas mention à un moment de la baguette magique. Mais de toute façon, je pense que ce sont des règles qui ont été écrites par les sorciers.
Oui.
Et donc, aucune créature non humaine n'est autorisée à détenir une baguette magique. Ouais, c'est un moyen de se protéger, quoi.
C'est ça, parce qu'on sait qu'en plus, les elfes, on va l'apprendre plus tard, mais c'est des créatures assez puissantes magiquement. Et du coup, ça arrange bien les sorciers qu'ils leur soient soumis, en fait. Parce que sinon, ils pourraient facilement soumettre tous les sorciers avec leur puissance. Alors, plus une baguette magique, on n'imagine même pas ce qu'ils pourraient faire.
Ouais, on le voit bien, les elfes, ils n'ont pas besoin, en fait, de baguette magique.
Mm-mm.
Donc, ouais.
C'est alors que Ludo Verpet apparaît avec un temps de retard. Alors que Barty revient bredouille de sa recherche. Ludo l'interroge sur ce qu'il vient de se passer. Pourquoi son collègue n'a pas assisté au match? Et parce que pourtant, son elfe lui avait gardé une place. Et en parlant de Winky, c'est à ce moment qu'il la découvre inanimée. Barty répond à Ludo qu'il n'a pas assisté au match, parce qu'il a beaucoup à faire, et pour ce qui est de son elfe, elle a été stupéfixée. Ludo Verpet comprend très vite ce qu'il s'est passé et a la même réaction que Monsieur Weasley à propos de la baguette. Mais Amos lui montre la baguette trouvée dans la main de Winky. Il propose à Croupton de faire en sorte de faire parler son elfe. Amos suit la fameuse locution « qui ne dit mot consent ». Il lance alors un énervatum sur Winky. C'est alors qu'elle se réveille, toute tremblante. Alors qu'elle s'aperçoit où elle se trouve, la pauvre elfe éclate en sanglots. Amos se présente à Winky comme faisant partie du département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Et lui demande des explications à cette pauvre elfe terrifiée. Tout de suite, Winky soutient que ce n'est pas elle qui a fait apparaître la marque. Alors que Diggory montre la baguette à Winky, Harry reconnaît sa baguette. Ce qui provoque à nouveau des soupçons chez Diggory. Alors un coup c'est l'elfe et un coup c'est Harry. Harry l'aurait donc jeté par terre après avoir lancé la marque des ténèbres. Mais Monsieur Weasley lui fait comprendre l'absurdité de son propos. Harry Potter aurait fait apparaître la marque des ténèbres. C'est alors qu'Amos se rend compte de ce qu'il a dit. Et en plus, Harry, il l'a même pas perdu là, à cet endroit, mais à l'entrée du bois. Ainsi donc, Winky a trouvé la baguette et a voulu s'essayer à la magie. Mais l'elfe lui dit qu'elle l'a seulement ramassée. Hermione, et là on sent tout le début de la SALE ou SALE dans ce chapitre, elle est intimidée, mais elle est déterminée à défendre Winky. Elle et ses amis ont entendu la voix qui ont lancé le maléfice. Et ce n'était pas la petite voix toute aiguë de l'elfe. Harry et Ron la soutiennent. En effet, la voix qui a lancé le maléfice, c'était une voix humaine. Mais Amos Diggory, il ne paraît pas convaincu par la défense des 3 jeunes sorciers. De toute façon, il y a un moyen très simple de vérifier quel a été le dernier sort jeté par la baguette d'Harry. Diggory met sa baguette bout à bout avec celle d'Harry et prononce Prior Incantato. Et là, une réplique nébuleuse de la marque des ténèbres apparaît entre les deux baguettes. La marque s'efface alors dans un volupte de fumée suite à un destructum de la part d'Amos. Persuadé que là, c'est une preuve de la culpabilité de Winky, donc là, Digori finalement, il rejoint la théorie selon laquelle c'est Winky qui a lancé la marque, Digori est triomphant. Mais Winky, toute tremblante encore, continue à se défendre. Elle ne sait pas faire ça, ce n'est pas elle. Alors que Digori continue de s'énerver sur Winky, Monsieur Weasley intervient. Où pourrait-elle avoir appris à se jeter ce maléfice alors que même très peu de sorciers savent le faire? Et là, ça rejoint notre question sur la compétence de certains sorciers, parce que la marque des ténèbres, de ce qu'on comprend, elle peut pas être lancée par n'importe quel sorcier, apparemment.
On peut même se demander si il faut pas être mange-mort.
Ouais, c'est ce que j'allais demander, ouais.
Parce que si c'est ça, ça complique beaucoup leur affaire, là, à eux tous, accusés à tort et à raison, tout le monde qui se trouve là. Parce que si c'est le cas, s'il faut être un mange-mort, à première vue, personne peut avoir fait apparaître la marque.
Bah après, tu sous-entends que... Ils sous-entendent tout de suite que le ou la coupable est forcément un mange-mort pour faire apparaître la marque.
Ouais.
Mais est-ce qu'il faut avoir la marque sur l'avant-bras pour être un mange-mort?
Ouais.
À ce moment-là, il faudrait vérifier l'avant-bras. Ouais. Enfin, je sais pas.
En tout cas, c'est horrible la position où se trouve Winky. Parce que la pauvre, elle sait vraiment pas quoi faire. Parce que elle doit mentir pour protéger ses maîtres. Mais en même temps, elle n'en reçoit pas l'ordre direct non plus de Barty. Et je trouve qu'on sent toute sa détresse parce qu'on lui pose des questions et elle ne sait pas quoi répondre. Parce qu'en gros, elle devine qu'elle ne peut pas répondre la vérité et en même temps, quoi répondre. Donc elle s'accuse elle-même d'avoir volé la baguette alors que c'est pas elle, elle le sait. C'est vraiment une victime collatérale, Winky.
Et je ne sais pas vous, mais dans ce chapitre, vraiment, je suis partagée entre la colère envers Amos Digori et on va le voir Croupton. Et vraiment, j'étais vachement émue en fait, du sort de Winky. C'est terrible et on comprend pourquoi Hermione plus tard va être animée d'une motivation pour défendre ces pauvres elfes. Quoi.
La colère, enfin le... C'est pas seulement Amos, Digori et Croupton, c'est finalement, il n'y a que Hermione qui réalise qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, en fait.
Oui, aussi. Oui.
Et ça, je trouve que c'est assez décevant aussi, mais c'est pas étonnant, finalement, qu'on sait comment sont traités les elfes, mais ça dit à quel point c'est intégré socialement que c'est normal de se comporter comme ça. Et peut-être qu'Hermione est moldue, justement, de base, enfin, née moldue. Je me demande si ça lui donne pas un certain recul pour réaliser que c'est pas normal ce qui se passe. Je sais pas, mais Harry, il est aussi... Enfin, il a été élevé avec des... Donc non, ma théorie joue pas.
Ouais, c'est vrai qu'Harry, pourtant, il connaît Dobby, il s'est pris d'affection pour Dobby, et pourtant, il va pas s'indigner autant qu'Hermione.
Mm-hmm.
Et Ron, parlons même pas de Ron.
Ouais, Harry, il se fait plus discret, mais en tout cas, ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que ça réveille le combat qui sera celui d'Hermione, en fait. Là, elle voit une injustice pure et dure se dérouler sous ses yeux et en fait, ça ne va pas la quitter. Et la happy end, c'est qu'elle y arrivera. Hein, dans l'univers étendu, elle devient ministre de la magie et les elfes de maison. Enfin, elle abolira l'esclavage des elfes de maison. Mais effectivement, Harry pourrait aussi... il pourrait se passer quelque chose dans son esprit. Ça n'a pas l'air d'être le cas.
En plus, ce qui est décevant de la part d'Harry, finalement, c'est qu'il relève seulement les bizarreries en fait, de Dobby et de Winky.
Oui, oui.
Mais mec, en fait, c'est des créatures magiques qui sont tellement conditionnées que pour eux, la liberté, c'est une punition. Enfin, ouais, ils peuvent être bizarres parce qu'ils sont finalement conditionnés à être des esclaves. Donc... ouais, les pauvres, c'est des créatures très puissantes et finalement soumises aux sorciers et ces pauvres créatures, si elles désobéissent à ces sorciers alors qu'elles sont extrêmement puissantes et intelligentes aussi, finalement, comment on appelle ça, s'auto-torture, quoi. C'est terrible. Il y a un mot pour l'auto-torture, mais j'ai oublié.
Autodestruction.
Ouais, s'autodétruisent finalement.
Mais après, globalement, Hermione est plus éveillée sur le monde que Ron et Harry, tu vois. Je pense qu'elle est mature beaucoup plus rapidement que les garçons. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un pattern qui existe dans la vraie vie. Les jeunes filles ont tendance à évoluer plus rapidement que les garçons. Et là, effectivement, ça réveille un sentiment d'injustice chez Hermione. Et je l'admire, en fait, pour justement prendre la parole, parce qu'elle est quand même entourée d'une vingtaine, trentaine de sorciers adultes.
Et de précisions
du ministère.
Il y a des il y a une femme ou pas?
Non, on ne sait pas ça, mais je pense qu'il y en a, ouais. Je pense que c'est assez mixte, mais il faut tenir tête, en fait, à tous ces gens, et notamment à des ministres, elle le fait.
Qui viennent d'essayer de te stupéfixer, en plus.
Puis je pense que Winky, comme je disais, c'est une victime collatérale et je trouve qu'elle représente tout ce qui va pas, en fait, chez les elfes de maison, parce que c'est une victime de tous les sorciers qu'elle fréquente. En fait, c'est une victime de Barty Junior qu'elle adore. Elle ignore la noirceur de son maître. Elle ignore qu'il est en train de reprendre le pas sur le sortilège que lui inflige son père et qu'en fait c'est en train de redevenir un mange-mort en puissance. Elle ignore tout ça parce que dans l'histoire on apprendra plus tard que c'est Winky qui a convaincu Barty Senior d'emmener son fils à la Coupe du Monde parce que elle voulait qu'il prenne l'air, elle voulait qu'il voie du monde, etc. Parce que pour elle, elle est persuadée que tout va bien avec Barty Junior, c'est son maître et c'est quelqu'un de vertueux et qu'il est gentil avec elle, etc. En fait, elle ignore tout de la véritable nature du fils. Elle va se faire renvoyer par le père, qui est aussi son maître. Et le père la renvoie pourquoi? Parce que elle a cru que son fils était quelqu'un de bien et que pour pas perdre la face dans les médias, il est obligé de le faire. Mais c'est cruel. Enfin, c'est
bravo, terrible. Tu as gagné ton adhésion à la salle.
Non, mais pour dire que Winky est le symptôme de tout ce qui va pas sur le traitement des elfes de maison dans la communauté des sorciers à ce moment-là, en fait. Mm-hmm. Et c'est ça dont se rend compte Hermione.
Donc on reprend avec le moment où Diggory accuse toujours Winky d'avoir lancé ce maléfice que de très peu de sorciers savent faire. Et c'est alors que Croupton sort de son silence, un silence hyper pesant. Hein. Après tout, Amos pense peut-être que lui, Croupton, apprend à ses serviteurs à faire apparaître la marque des ténèbres. Donc là, c'est un peu une situation malaisante. Et bizarrement, du coup, Amos, il bredouille un peu, hein, parce que accuser Winky, en fait, c'est accuser Croupton indirectement. Et en effet, il a accusé les deux personnes les plus improbables de faire apparaître la marque des ténèbres. Après tout, il connaît l'histoire d'Harry, et lui, Barty Croupton, est-ce qu'il n'a pas apporté au cours de ces dernières années la preuve de sa haine envers ceux qui pratiquent la magie noire? Parce qu'on va le voir plus tard, pourquoi Croupton, avec son histoire, est la personne qui a moins le risque de faire partie des mange-morts. Croupton lui rappelle que s'il accuse Winky, donc il accuse lui et son maître par la même occasion. Et ce dernier demande à son elfe où est-ce qu'elle a trouvé sa baguette. Winky lui répond qu'elle l'a trouvée dans les arbres. Pour Monsieur Weasley, celui qui a fait apparaître la marque a très bien pu transplaner après avoir jeté le maléfice. Et Winky s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais du coup, ça veut dire qu'elle se trouvait à quelques mètres du coupable.
Et c'est juste c'est ce que je disais là, par exemple Barty Senior, il lui demande mais du coup où est-ce que t'as trouvé la baguette, c'est lui qui lui demande ça. Alors qu'il sait très pertinemment, il lui demande de mentir pour ensuite la virer. C'est du sadisme pur, quoi. C'est-à-dire que pour pas perdre la face, en fait, il manipule complètement son elfe de maison devant tout le monde, quoi.
Bah oui.
Vous pensez qu'à ce moment-là, Croupton Senior, il sait qui a fait cette marque?
Oui. Oui, il sait que c'est son fils parce que quand Amos Diggory a retrouvé Winky, ensuite il se rend dans le petit bois et en fait on sait plus tard que c'est là où il est tombé sur le corps de son fils qui était stupéfixé mais qui était encore sous la cape d'invisibilité. C'est pour ça qu'Amos Diggory l'a pas vu et en fait il a connecté tout de suite, il a tout de suite compris que ce qui s'était passé, que c'était son fils qui avait jeté la marque des ténèbres, que c'est Winky qui avait essayé de l'éloigner du groupe.
Attends, comment il a vu le corps de son fils si elle était sous la cape d'invisibilité?
Comment?
Comment il a vu le corps?
Il
de
est tombé
son
dessus parce qu'en fait, il a trébuché dessus, tu vois. Ouais. Amos dit, en fait, lui seul savait qu'il y avait une cape d'invisibilité. Et c'est pour ça que quand Winky, en fait, elle a une pression sur elle, quand Harry, Ron et Hermione la voient, c'est en fait, elle porte carrément par la magie sur son dos Barty Junior qui est sous la cape d'invisibilité. Voilà. Donc oui, en fait, il a très. Et en fait, lui, il sait, là, Barty Senior, il sait ce qui s'est passé, il sait que c'est son fils. Et c'est pas Winky la responsable. Et le responsable, c'est peut-être lui, d'ailleurs. Mais de toute façon, il faudra qu'on fasse tout un after-show sur ce personnage. Hein. Il est passionnant, parce qu'on peut se demander, avec sa rigidité, s'il n'est pas lui-même responsable de ce qu'est devenu son fils. Est-ce que c'est pas lui le responsable de tout? Enfin bref, je ne vais pas me lancer maintenant, évidemment, sinon je vais me faire tuer par Marina, mais... Qui veut terminer sa partie?
Ben oui, et le problème, c'est que si on parle de tous les sujets...
Non, on parlera pas de celui-là aujourd'hui, ouais.
On grille tous les futurs chapitres, ouais, les podcasts et les émissions.
Ah ouais, parce que c'est au cœur de la révélation à la fin. Ouais.
Ne spoil pas trop, parce que peut-être qu'il y a des auditeurs ou auditrices qui n'ont jamais lu les livres et donc du coup qui vont avoir des surprises lors de l'écoute de nos podcasts, en fait, parce que les films sont tellement coupés qu'il y a plein de choses à découvrir, en fait, dans ce tome.
Je me souviens aussi qu'il y a quelques années, quand on avait enregistré le chapitre 1 d'Harry Potter 1, on avait bien dit, bon, attention, on spoil tout.
Ouais, mais là, c'est un peu spécial quand même. Là. Le film a été tellement coupé que finalement,
oui,
plus, en fait, j'ai l'impression que plus on va dans la saga et plus on va pouvoir faire découvrir certaines choses à ceux qui ont seulement vu les films.
Ouais, ouais.
Donc ça peut être intéressant de garder des petits trucs pour nous.
Bah, surtout quand en adaptation, le quatrième film... on l'aime pas, mais en termes d'adaptation, c'est catastrophique parce que ils ont retiré plein de choses de l'histoire. C'est quasiment pas la même histoire.
La pauvre Winky tremble plus fort que jamais. Elle n'a vu personne. Croupton demande alors à Diggory d'interroger lui-même Winky, alors qu'il sait très bien que la procédure voudrait qu'elle soit emmenée au département de contrôle et régulation des créatures magiques pour un interrogatoire, mais lui assure qu'elle va être sanctionnée. Elle a désobéi à son ordre de rester sous la tente. Elle va donc recevoir des vêtements. Et c'est la goutte de trop pour Winky qui se met à hurler, à supplier son maître de ne pas lui donner des vêtements. Cette sanction rime avec liberté pour un elfe, mais pour ces créatures, la liberté n'est pas forcément une délivrance. Hermione, prise de colère, dit à Croupton que si son elfe est partie, c'est parce qu'elle avait tout simplement peur. D'abord, elle a eu le vertige dans le stade, puis des sorciers masqués ont fait léviter des gens. Mais Croupton n'a que du mépris envers Winky, malgré les sanglots de cette dernière. Après un silence gênant, Croupton annonce qu'il retourne à sa tente et demande à Amos de rendre la baguette d'Harry. Alors qu'Harry récupère sa baguette, Arthur Weasley invite les trois jeunes sorciers à rentrer avec lui. Mais Hermione a du mal à quitter la clairière. Elle a tellement de peine pour Winky et on ne peut que comprendre Hermione, parce que je pense que on a tous et toutes de la peine à ce moment-là pour cette pauvre créature, quoi. Moi, j'avais un peu la petite boule à la gorge.
Puis de la colère contre Amos Diggory, quand même, parce que là, c'est là qu'on découvre vraiment ce personnage.
Ah, parle elfe.
Ouais, il l'appelle elfe. En fait, je me suis dit, dans ce chapitre, c'est un peu l'anti-Arthur Weasley, parce que Arthur Weasley, il répare les gens qui font des mauvaises blagues aux moldus, mais à côté, il adore les moldus, il fait ses bricolages de son côté, il est passionné par ça. Et là, je me suis dit, en fait, Amos Diggory, s'il est au département de contrôle et de régulation des créatures magiques, j'ai l'impression que s'il est à ce département-là, c'est parce qu'il les déteste, en fait.
Ouais.
Et que c'est l'inverse d'Arthur Weasley.
Donc, on imagine les interrogatoires où les créatures partent coupables dès le départ, en fait.
C'est un personnage complexe parce que son fils mourra à la fin. Désolé du spoil, mais bon, tout le monde s'en rappelle de ça, j'espère. Et en même temps, c'est pas un personnage qu'on aime beaucoup, en fait.
Ouais, parce qu'on le verra plus tard, c'est que... peut-être qu'on l'a déjà vu dans les débuts de ce livre, c'est que... Donc, on voit son comportement vis-à-vis de Winky, mais aussi, on voit qu'il a un amour toxique, mais très fusionnel avec son fils, mais son fils est le meilleur de tous. Son fils doit battre tout le monde, son fils... Enfin, c'est un personnage, j'ai l'impression, qui est très...
Mégalo.
Ouais, merci. Ouais, ouais. Un personnage très sympathique.
Non. Mais les Diggory, on est d'accord que dans la famille, c'est des Poufsouffles, il me semble. Moi aussi, des Poufsouffles.
Cédric, oui.
Le Wikipédia va nous... Peut-être.
Il me semble que c'était même une fierté dans leur famille d'être Poufsouffles. Et du coup, j'ai envie de dire, on dirait pas un Poufsouffle, quoi, le gars.
Bah, l'exception qui confirme la règle, quoi. Ouais. Amos Diggory, il est quoi ? Alors...
ouais, sur le wiki français, en tout cas, on parle pas de sa maison. Par contre, je le vois bien, effectivement, oui. À Poufsouffle. Et on sait que ça arrive souvent, hein, en fait, hein, les gens d'une même famille, comme les Weasley à Gryffondor. Après, on sait très bien qu'il n'y a pas que des gens bien non plus à Poufsouffle. Hein,
bah, comme il n'y a pas que des mauvaises personnes à Serpentard, que des gens bien à Gryffondor et pas que des personnes super intelligentes à Serdaigle, quoi.
C'est dans le genre de chapitre, je trouve, qu'on on voit vraiment que Harry Potter, c'est pas manichéen. Parce que dans le chapitre, d'un côté, on a les Mangemorts qui ont l'air irrécupérables. C'est peut-être les pires. Mais en même temps, ceux qui combattent le mal sont pas tous des gens bien non plus. Parce que Diggory et Croupton sont insupportables, en fait, dans ce chapitre. Et je trouve que c'est très fort ce qu'elle fait, J.K., en fait, de montrer qu'il n'y a pas le bien et le mal, et que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est beaucoup plus gris que ça, et qu'il faut dépasser les a priori.
De toute façon, je pense qu'on est tous et toutes, on est toujours dans une zone grise toute notre vie, en fait. On ne peut pas faire que les meilleurs choix et que des mauvais choix, en fait. On est toujours dans un entre-deux et on essaye juste de faire ce qui est bien et ce qu'on pense être bien, mais on a tous des valeurs et puis une morale différente et des points de vue différents, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, heureusement aussi, hein, puisque sinon, ça serait triste, la vie, si on avait tous les mêmes goûts, etc. Mais oui, c'est à l'image du monde des Moldus, hein, finalement, le monde des sorciers. C'est pas la magie, tout est rose, tout est beau...
Et puis, comme tu dis, toute une question de choix. Dans Harry Potter, le déterminisme est primordial. Ce qui compte, c'est pas que tu sois bon ou mauvais. Ce qui compte, c'est les choix que tu fais, en fait. Et par exemple, bah, Croupton a fait des choix qui les ont menés à ce qu'il est maintenant. Ouais. Et je trouve que voilà, c'est un chapitre qui met bien en lumière cette espèce d'anti-manichéisme qui traverse toute l'œuvre d'Harry Potter.
Donc, on était sur Hermione qui avait du mal à quitter la clairière. Elle a peur, hein, elle avait de la peine de laisser Winky, parce que Croupton l'a traitée comme si elle n'était pas humaine.
T'as dit Croupton, ça me fait...
J'ai dit Croupton.
Mais ça me va, moi franchement, on peut l'appeler Croupton, il n'y a pas de problème.
Croupton, pardon. Oui, bah, vous m'avez compris. Mais je ne sais pas dire stupéfixié. Si, stupéfixié, stupéfixié, si, ça va. Mais je crois que je l'ai mal dit aussi dans les... Vous me direz.
À partir de maintenant, on l'appelle tous Croupton.
Même si Ron, justement, souligne que bah, Winky, elle n'est pas humaine. Mais Hermione lui rappelle que, OK, elle n'est pas humaine, mais elle est quand même douée de sensibilité. Et là, ça fait penser quand même au débat sur le bien-être animal et compagnie aussi.
L'éternel, ouais. Il est complètement à côté de la plaque, le pauvre Ron, quand même.
Ouais. Ouais, ouais. Mais Arthur Weasley, il stoppe tout de suite le débat sur le droit des elfes. Alors qu'ils arrivent à la lisière du bois, une foule de sorciers et de sorcières leur barre la route. Tous sont inquiets de savoir ce que signifie l'apparition de la marque. Et surtout, est-ce qu'elle a pour signification le retour de Voldemort ? Arthur Weasley les rassure vite fait parce que le pauvre, il est fatigué, il veut retrouver sa tante et je pense qu'il veut savoir aussi si ses autres enfants sont en vie, surtout. Eh bien, les autres sont tous revenus sains et saufs, malgré le bras de Bill qui saigne abondamment et le nez de Percy qui saigne un peu aussi. Bon, on ne saura pas trop pourquoi, on s'imagine qu'ils sont peut-être bagarrés, ils ont reçu des petits sorts. Et devant l'interrogation des autres enfants, Monsieur Weasley, Harry, Ron et Hermione leur expliquent ce qui s'est passé. Percy, lui, est horrifié. Alors, pas de la situation dans son ensemble, mais surtout, il est horrifié que ça soit l'elfe de son cher Barty Croupton, qui soit impliqué dans cette histoire, parce que, oh là là, quel embarras pour l'employé du ministère, ce cher Barty. Franchement, ça mange sa réputation, c'est terrible. Évidemment, il n'en faut pas plus pour qu'une dispute naisse entre Percy et Hermione, alors qu'ils s'étaient tous les deux toujours très bien entendus. Ron, lui, questionne son père sur le sens de la marque qu'ils ont vue ce soir. Hermione, elle sait, parce qu'elle l'a lu dans Grandeur et décadence de la magie, que c'est le symbole de Voldemort. Et Arthur Weasley, lui, ajoute le fait que ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas vu cette marque. Mais Ron, lui, comprend pas pourquoi une simple forme peut provoquer une telle peur. Et son père lui explique que Voldemort faisait apparaître cette forme à chaque tuerie. Donc, imaginez trouver cette forme au-dessus de votre maison. C'est assez terrible, donc ça fait remonter des souvenirs terribles dans la communauté sorcière. Il dit que la marque a terrorisé tous les Mangemorts. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont transplané. Alors du coup, ils n'ont pu en démasquer aucun. Mais malgré tout, ils ont réussi à rattraper la famille Roberts avant qu'elle ne tombe par terre. Et heureusement, la famille a pu subir un sortilège d'amnésie. Donc Harry s'interroge sur c'est quoi en fait les Mangemorts. Et Bill lui répond que ce sont les noms des partisans de Voldemort. Mais après cette soirée, on peut se demander quel est le but des Mangemorts en fait. Et donc d'un rire sans joie, Monsieur Weasley répond à Harry que c'était juste une distraction pour eux ce soir. La moitié des meurtres de Moldus qui ont eu lieu lors du règne de Voldemort ont été perpétrés seulement comme amusement par les Mangemorts. Et ce soir, on peut voir ça comme une petite réunion entre amis. Et vous pensez que c'est une petite soirée entre amis qui a mal tourné, genre allez, on a un peu bu et on va bully des sorciers. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était quoi pour vous,
Yasmine?
Je sais pas. Ça peut être les deux en fait. Les deux hypothèses sont possibles. Parce que je me dis qu'une Coupe du Monde de Quidditch, c'est quand même un gros rassemblement sorcier. Je pense qu'il y en a pas souvent. Du coup, peut-être qu'ils avaient déjà prévu de faire quelque chose juste pour montrer qu'ils étaient encore là, qu'ils existaient. Et peut-être que la façon dont ça s'est passé, là pour le coup, c'est l'alcool qui a fait qu'ils ont fait absolument n'importe quoi. Je sais pas s'ils avaient un plan précis ou juste l'envie de montrer qu'ils existaient, puis que c'est l'alcool qui a fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je sais pas.
Pour ne pas les oublier, un petit rappel qu'ils étaient toujours là, cachés, mais toujours là. Et on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération.
Ouais. On peut voir ça comme ce chapitre, comme voilà, un message. Attention, l'alcool peut être dangereux.
Et toi, du coup, Jérém, tu penses quoi?
Je sais pas, je sais pas si c'est prémédité. Est-ce qu'ils avaient un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram crypté en préparation d'une attaque? Honnêtement, je sais pas, mais après que ce soit préparé ou non, ça reste ridicule. Surtout qu'en fait, ce sont les sous-mangemorts qui sont là. Parce que c'est ça aussi, ce chapitre-là, il fait la différence entre guillemets, les mangemorts qui se la racontent, avec en tête de proue les Malfoy. Comme on a dit, un Drago, il est à l'image de ses parents. Il parle, mais voilà, il fait que parler, quoi. C'est un beau parleur. Bah là, c'est des mangemorts beaux parleurs. En fait, ils sont là pour se montrer. Mais par contre, leur pire peur, c'est leur ancien maître, en fait. Et la preuve, c'est que dès qu'ils voient un signe qui pourrait signifier le potentiel retour de Voldemort...
Ah oui, parce que justement, on se demande pourquoi les fidèles de Voldemort ont tous transplané quand ils ont vu la marque des ténèbres. Et on peut supposer que c'est par lâcheté, parce qu'après la chute de Voldemort, ils ont tous trouvé différents prétextes pour échapper à la condamnation. Donc, ce n'est pas forcément de leur intérêt de retrouver leur ancien maître. Donc la question en suspens est de savoir si la personne qui a lancé la marque voulait faire peur aux Mangemorts ou exprimer sa sympathie envers eux.
C'est un vrai mystère à ce moment-là pour le lecteur.
Ouais. Mais c'est fou, enfin, on voit vraiment la lâcheté, on va en reparler après, mais on voit vraiment la lâcheté des Mangemorts parce qu'ils sont là pour show-off un peu. Mmh. Ouais, on est des Mangemorts, fidèles de Voldemort, on soutient, gloire à Voldemort, etc. Mais par contre, à l'instant où il y a peut-être un mini doute qu'ils soient de retour, bah finalement, ils n'ont pas été 100% un soutien pour leur ancien maître. Et donc, du coup, ils sont hyper lâches. Et en fait, c'est que de l'apparat, en fait. Et finalement, c'est des gros lâches parce que ce n'est pas dans leur intérêt de retrouver leur maître, en fait, parce qu'ils l'ont trahi. Donc, c'est des sous-shit.
C'est du Malfoy tout craché surtout. Hein. Je sais pas si c'est préparé, mais en tout cas, c'est le leader, ça c'est évident. Hein.
Et ouais, comme on a vu dans le précédent épisode, les Malfoy, c'est d'autant plus des lâches parce que on l'a appris dans le précédent épisode avec le Wiki, etc., le ancien Pottermore, c'est que les Malfoy ont fait leur fortune grâce aux Moldus et qu'ils, avant l'instauration du code magique, ils aimaient se montrer dans les cercles mondains moldus, parce que justement, ils aiment la para, ils aiment se faire voir, ils aiment le pouvoir. Et finalement, c'est des girouettes, en fait, parce qu'ils vont là où il y a le pouvoir et là où ils peuvent se montrer, en fait.
Et tu sais quoi, je me demande même un truc. Parce que je suis persuadé que c'est à l'initiative de Lucius Malfoy. Ce truc-là, parce que c'est la signature Malfoy. Et je me demande même si ça vient pas d'une envie un peu de se venger qu'Arthur Weasley et sa famille aient été en tribune officielle, tu vois.
Wow, non, mais, ça va loin quand même.
Non, mais parce que, tu vois, quand il y a la discussion avec le ministre, tu sais, Malfoy, c'est ça, il aime être dans les hautes sphères, il est dans l'apparence totale.
Peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal, ouais, l'important, voilà. C'est qu'on parle de moi.
Mais c'est ça, c'est que je pense qu'il n'a pas, tu vois, il n'a pas pu avoir son petit moment privilégié avec le ministre parce qu'en plus, c'était pollué par la présence des Weasley. Et est-ce qu'il s'est pas dit, tiens, comme petite piqûre de rappel, je vais jouer le côté pile ou face, tu vois, le côté mange-mort, tu vois, et on va foutre la pagaille là-dedans, tu vois, une espèce d'orgueil comme ça, soupçon d'orgueil, en mode, je peux aussi faire peur, quoi, j'en sais rien.
Je sais pas.
Mais en tout cas, c'est lui qui a l'initiative de ça, j'en suis persuadé.
En tout cas, la question va rester en suspens, alors de savoir si la personne ayant lancé la marque voulait faire peur au mange-mort ou, et je me répète, exprimer sa sympathie. Mais vous n'auriez rien entendu. Je me suis répétée, mais c'est pas grave. Monsieur Weasley, botte en touche, donc sur le fameux
vote
débat.
En qu'on...
Botte en touche.
Vote.
Botte en touche. Ah c'est ouais. Voter en touche.
Voter
non,
en...
Yasmine.
Voter en touche.
Je sais pas.
C'est botter en touche.
Botter.
Botter.
Beauté, ah ouais?
Bah oui, c'est beauté en touche.
Ne pas répondre, ok, j'ai toujours dit beauté en touche.
Non mais, Jérém, avec tes expressions, je te fais plus confiance.
On dit beauté en touche?
Je te fais plus confiance parce que, venant d'une personne qui a chanté pendant des années, petit portoricard, au lieu de.
Personne va avoir la ref.
Portoricain de la chanson ouais. Manhattan Kaboul de Renaud et Axel Red. Je ne fais pas confiance.
Petit Porto Ricard.
Imaginez qu'il a chanté ça dans les fêtes de famille pendant des années.
Après, on a tous eu nos hallucinations auditives.
Oui, mais il n'y a pas de sens, Petit Porto Ricard.
Ce que je buvais dans mon biberon.
Il y en a plein de trucs comme ça, on les gardera pour les prochains podcasts. Bon, en tout cas, il se fait tard et toute la petite troupe va aller se coucher parce qu'ils vont prendre un porte au loin très tôt le lendemain matin, surtout pour rassurer Molly. Cette nuit-là, Harry a du mal à s'endormir. Il repense aux 3 jours qui se sont écoulés et à tout ce qui s'est passé. Et surtout à la lettre qu'il a écrite à Sirius et se demande si son parrain l'a reçue. Désormais, son imagination ne le porte plus sur son balai volant.
Merci Marina, c'est ton nom.
Merci
pour ce chapitre.
Jérémy.
C'est mon nom.
Ou Jérém quand je suis énervée.
Ah, je t'ai énervée sur chapitre.
Non.
Parce que j'ai voulu partir dans un délire de biographie de Parti Groupe Ton Seigneur. Et merci Yasmine, c'est ton nom aussi.
Pour, merci à vous.
Pour nous avoir accompagnés, et notamment dans mes délires parfois. Dont mon analyse mot par mot et mes découvertes d'expressions de la langue française grâce à Marina. Beauté en touche, incroyable. Il est temps maintenant de sélectionner le personnage qui nous a le plus marqué dans ce chapitre, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit en mange-mort ou en aurore. Yasmine, si tu devais retenir qu'un seul personnage, ou quelques-uns, je sais pas, qui tu choisirais, qui tu retiendrais sur ce chapitre?
Ah, je suis obligée de choisir Hermione, là. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup à dire, ouais, c'est l'éveil de son combat futur, et puis que ça me paraît tellement juste aussi, du coup, ouais, j'ai un faible pour Hermione, là.
Marina, toi aussi, ou t'as choisi quelqu'un d'autre?
En fait, j'ai trop du mal à choisir. Parce qu'il y avait Hermione, bien entendu, pour sa compassion envers Winky. Il y a Winky elle-même, en fait.
Ouais, la victime.
Parce qu'elle est victime de tout ça, et on a tellement de peine et de compassion pour elle. Et après, ouais, j'ai deux autres personnages, mais je vais choisir Winky.
Ok.
Et toi?
Bon, j'ai sélectionné Hermione, mais c'était difficile aussi. Mais finalement, comme ce chapitre, il est assez dur, y a de l'injustice, ça peut mettre en colère. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être le courage d'Hermione, en fait. C'est, voilà, il faut toujours retenir le positif. Mmh. Et donc, je choisirais le Hermione qui tient tête à Monsieur Croupton devant tous les employés du ministère. GG à elle pour ça. Voilà.
Girl power.
Girl power. Elf power. Allez, on va passer à des sujets plus légers,
non. Pas du tout.
Parce que vous nous avez envoyé des hiboux bien gratinés, vous aussi. Mais voilà, c'est notre devoir de nous y coller. Donc, on passe tout de suite, vous l'avez deviné, à la volière. Et on commence avec le hibou sonore qui nous a été envoyé par Lou.
Bonjour Jérémy et Marina, j'espère que vous allez bien. Je voulais savoir si vous pensez que, par exemple, dans un match de Quidditch, quelqu'un meurt, est-ce que c'est Poudlard qui prend la responsabilité ou c'est les parents ou les personnes qui s'occupaient du match? C'est pareil pour Cédric Diggory, qui a pris la responsabilité? Poudlard ou les personnes qui s'occupaient du tournoi des trois sorciers? Parce que clairement, les parents n'y sont pour rien, n'est-ce pas? Bref, sinon, je voulais dire que j'adore votre podcast, j'adore l'écouter. Et voilà, continuez comme ça, bisous, bisous.
Merci Lou pour ton hibou sonore. Effectivement, le sujet est...
Futur pénaliste.
Le sujet n'est pas plus léger, mais il est très intéressant. Alors, qui porte la responsabilité de la mort de Cédric ou de la mort éventuelle d'un joueur de Quidditch à Poudlard, par exemple? Moi, je dirais que c'est un peu tout le monde et personne à la fois, en fait. Parce que ni Dumbledore en tant que directeur d'école, ni Fudge en tant que ministre ont été renvoyés suite à la mort de Cédric.
Après, peut-être parce qu'ils ont des avocats sorciers et du coup, ils font signer une décharge.
Moi, je pense qu'il y a une sacrée décharge.
Par les tuteurs légaux, les parents, pour se dédouaner de toute responsabilité de ce chantier.
C'est exactement ce que je pensais. J'aurais bien voulu voir la décharge, par contre, ça doit être assez fleuri. Si jamais je perds la tête, etc., etc., je dédouane de toute responsabilité qui que ce soit.
300 parchemins.
Ouais, non, mais je pense que Poudlard fait signer un sacré papelard aux parents quand il rentre en première année. Hein, je pense que c'est le cas. Globalement, le monde des sorciers, il est beaucoup plus dangereux que le nôtre. Et le taux de mortalité, je pense qu'il est beaucoup plus élevé que le nôtre. Donc, effectivement, je pense que l'école prend ses précautions. Après, Dieu merci, il n'y a pas eu une mort du Quidditch, mais c'est pas ridicule ce que dit Lou. Hein. Il pourrait très bien y avoir un mort. Hein. Harry, il tombe de son balai, je ne sais pas combien de mètres de haut dans le prisonnier d'Azkaban. Si Dumbledore n'était pas là, je ne sais pas si quelqu'un aurait pu faire quelque chose.
Et même, le truc qui me terrifie à Poudlard, ce sont les escaliers qui n'en font qu'à leur tête. Imagine, t'allais rejoindre la dernière marche, le palier, entre la dernière marche et le palier. Et là, quand ça a bougé et tu mets le pied dans le vide, tu tombes. Est-ce qu'il y a des sortes de filets magiques pour te rattraper? Moi, ça me terrifie. Depuis la lecture du premier tome, il y a 20 ans...
Peut-être que tu rebondis ou un truc comme ça.
Ouais, mais la peur!
Non.
Mais aussi, est-ce que à la rentrée, est-ce que les parents de leurs sorciers et sorcières doivent fournir une attestation d'assurance civile? Magique.
C'est déjà...
Bah ouais, avec tout ce qui se passe à Poudlard, c'est légitime.
Tu payes, ouais.
La massif, là, la MAP, je sais pas ce qu'on a, là, les brochures qu'on avait avant, en début d'année.
Ou t'as une taxe Sainte-Mangouste par défaut, parce que si tu vas forcément te retrouver au moins une fois dans ta vie à Sainte-Mangouste, et donc t'es obligé, t'as une mutuelle obligatoire de Sainte-Mangouste. C'est pour financer l'hôpital, peut-être. Peut-être. Après, je sais pas si tu te souviens, Marina, mais on a évoqué ça à la fréquence et ça nous avait fait vriller. Je me souviens, enfin, vriller. En tout cas, moi, ça m'avait marqué. Mais les escaliers qui n'en font qu'à leur tête, c'est une invention des films. Et c'est pas dans les livres. Tu te souviens de ça?
Ah bon?
On avait cherché partout. Il est fait mention nulle part dans les livres que les escaliers n'en font qu'à leur tête. C'est dans le premier.
Oui, mais les escaliers bougent.
Même pas. Enfin, il n'y a pas de scène où les escaliers bougent, je crois pas, dans les livres. Alors, peut-être que je me trompe, mais à vérifier, mais je crois pas.
C'est bizarre parce que moi, il me semble. Un souvenir, je sais pas d'où je sors ça, que c'était une invention d'une des fondatrices, Serre d'Aigle.
Peut-être. Dans un article Pottermore, peut-être.
Oui, je sais pas. Mais il me semble que c'était elle qui avait voulu faire en sorte que les élèves doivent tout le temps se creuser la tête.
Bah, c'est peut-être.
Qu'ils s'ennuient pas trop.
Ouais, peut-être que Rowena Serre d'Aigle a mis ça en place. Et peut-être que c'est dans un écrit de Pottermore. Parce que Pottermore, c'est assez fascinant parce que ça mélangeait le canon des films et des livres, donc peut-être qu'ils ont voilà, ça fait le lien finalement avec l'univers livre, mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'à un moment il est fait mention des escaliers qui en font là qu'à leur tête, mais par contre dans le 1 je suis quasiment persuadé que ce n'est pas mentionné, et si c'est dans le 1, alors bon déjà parce que ça fait joli et tout, c'est marrant, mais c'est aussi un moyen pour que Harry, Ron et Hermione ils se retrouvent dans le couloir interdit. Parce qu'ils ont supprimé le duel à minuit avec Drago Malfoy, avec Harry, Ron, Hermione et Neville qui fuient Ruzard. Il n'y a pas cette scène-là, et donc il fallait justifier qu'à un moment, le trio se retrouve dans le couloir où ils n'ont pas le droit d'aller. Et du coup, bah, c'est l'escalier automatiquement qui mène au couloir interdit. Mais ça ne se passe pas comme ça dans le livre. Mmh. Et je m'en étais venu, je crois, à me demander, mais je crois que les escaliers ne bougent jamais dans le livre. Mais à vérifier, à vérifier. Mais... Même sans ça, Poudlard est dangereux, quoi. Dans le film comme dans le livre. Ah, j'ai un dernier exemple en tête. Armando Dippet, qui était directeur à l'époque de la première ouverture de la Chambre des Secrets, il n'a pas été renvoyé non plus à la mort de Mimi Géniard. J'ai vérifié, il est resté au moins une vingtaine d'années directeur à l'heure qu'il y a une élève qui est morte. Et ça aurait pu être... Ils auraient pu attraper Tom Jedusor avant. Enfin... Dans le monde de Moldu, c'est inimaginable que la direction d'une école soit pas punie pour mauvaise gestion, ou que l'école soit pas fermée avant qu'un drame arrive, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, en tant que directeur d'école, t'es à peu près tranquille, même s'il se passe un drame comme ça dans ton école.
Nous passons au hibou sonore d'Amande.
Hello la fréquence, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que Hermione sait que son chat est un miflaireur? Si oui, est-ce qu'elle sait ce que ça veut dire exactement? Parce que dans le prisonnier d'Azkaban, juste après que Ron il se fasse emmener sous le sol cogneur, Patoron il apparaît et il sait exactement quoi faire pour immobiliser l'arbre. Ok? Mais est-ce que ça ne choque pas Hermione, ou est-ce qu'elle ne se doute pas de quelque chose par rapport à son chat? C'est quand même, on va pas dire normal, mais c'est quand même bizarre que son chat il sache exactement où mettre la patte pour arrêter le sol cogneur. Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît un peu bizarre. Mais après, je me dis, c'est le monde de la magie. Mais quand même, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc, j'attends votre réponse avec impatience. Et je vous souhaite une bonne continuation. J'adore vous écouter. Merci beaucoup.
Très bonne question. Moi, je serais tentée de dire non. Elle sait pas que son... Enfin, elle se doute que son chat est peut-être doué d'une intelligence supérieure, mais ça, tous les mamans et papa chats sont persuadés que leurs chats sont d'une intelligence supérieure.
Tu veux témoigner
Mais moi, en tout cas, je pense pas qu'elle se doute que c'est un flaireur, enfin un mi-flaireur. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je pense pas non plus qu'elle le sache. Et d'ailleurs, le lecteur ne le sait pas non plus lui-même.
Parce que le flaireur, on est d'accord que c'est une information qui est arrivée après les livres, en fait. C'est un ajout de J.K. Rowling.
Elle l'a mentionné sur son site internet en 2006. Donc, c'était avant quand même l'apparition des Reliques de la Mort. Mais c'est bien après Le Prisonnier d'Azkaban. Et je crois pas, de toute façon... à vérifier si dans les Reliques de la Mort, on fait mention à un moment donné que Patanron est un mi-flaireur, mais je crois pas. Je crois pas, non. Je pense pas que c'est dans le texte. En fait, c'est une information annexe qu'on a pu avoir grâce à J.K. Rowling. Mais après, dans l'histoire, non, c'est jamais fait mention. Donc, je pense pas qu'Hermione le sache non plus.
Vu que c'est un ajout, on peut se demander même si elle était au courant du flaireur quand elle a écrit.
Oui, on peut se demander. Comme le mentionne Amande aussi dans son hibou, c'est que c'est le monde de la magie. Donc en vrai, tout est possible, quoi. Est-ce que c'est vraiment étonnant que ton chat il communique avec un animagus chien et qu'il arrive à lier une amitié avec?
Mais rien que dans le monde moldu, par exemple, nous, nos chats nous parlent et on les comprend parfaitement. Ils sont super intelligents.
Mais est-ce que tu t'es rendu compte que tes chats, c'était des mi-flaireurs aussi ou pas?
Totalement des flaireurs. Ils sont plus intelligents que la moyenne. C'est les chats les plus intelligents du monde.
Ouais.
Ils ont juste des petits moments d'égarement.
Et on passe au dernier hibou sonore qui nous a été envoyé par Loli.
Coucou la fréquence, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question à vous poser. D'après vous, les amis des enfants moldus, par exemple dans le cas d'Hermione, ces amis primaires, comment elle leur explique qu'elle va dans un autre collège? Un collège sorcier, elle peut pas leur dire que c'est Poudlard, un collège sorcier, de la magie, etc. D'une, il apprendrait pour une folle, et deux, c'est interdit de le dire par le code magique. Et donc voilà. Et après, il y a aussi la supposition qu'il y a deux collèges dans la ville. Mais après, s'il y en a qu'un seul et que c'est un petit village, je sais pas comment ils peuvent faire. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'avais une supposition. C'est que les sorciers, des sorciers oubliaient les amis. Pour que, par exemple, dans le cas là d'Hermione, pour que les amis oublient Hermione. Voilà. J'espère que vous pourrez répondre à ma question. Je sais pas si ça a été très clair. En tout cas, c'était clair dans ma tête. Voilà. J'espère passer dans la volière. Continuez comme ça, je vous adore. Allez, bye!
Merci, Loli. Bah, tu vois, tu passes dans la volière et c'était très clair, tes questions. Est-ce que Hermione, en gros, a gardé contact avec ses anciens camarades à l'école moldue ou est-ce qu'ils ont été oubliés ou une autre alternative? C'est une question que j'ai beaucoup aimée puisque je ne crois pas qu'on en ait eu... qu'on ait eu des questions comme ça avant et c'est passionnant comme débat parce qu'il n'y a rien dans les livres, on peut avoir que des suppositions, que des théories et je trouve ça marrant de théoriser là-dessus. Moi personnellement, je ne pense pas qu'on ait oublié les anciens camarades de primaire d'Hermione, je trouverais ça un peu agressif comme stratégie, un peu violent de la part des sorciers. Je pense tout simplement, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'elle a perdu naturellement le contact avec ses anciens amis d'école. D'ailleurs, ça se trouve, elle n'avait pas beaucoup d'amis dans le cas d'Hermione. On peut se poser cette question parce que dans l'école des sorciers, elle met du temps quand même à se faire accepter en tant qu'amie. Dans l'école des sorciers, Hermione, c'est pas forcément une amie facile à se faire dans son comportement. Donc déjà, on peut se demander si elle avait vraiment des amis. Après, des camarades, elle en avait. Mais ça nous arrive aussi enfin, moi, je suis pas en contact avec tous mes anciens camarades d'école, ça serait très compliqué. Et donc, naturellement, la vie fait qu'on s'éloigne. Donc, et là, le fait que Hermione soit une sorcière et qu'elle soit partie dans une école de magie et qu'elle est très certainement la seule de son école primaire à avoir fait ça, je pense que bah, tu perds contact. Et puis, petite ville ou pas, elle y reste que l'été chez elle. Donc, les occasions de croiser des anciens camarades sont peut-être assez, pas nuls, mais assez faibles, surtout que des fois, elle part pas tout l'été. J'ai l'impression que ses parents, elle les voit un peu pendant les vacances d'été, mais qu'elle part souvent en vacances avec eux. Donc, je pense que ça pose pas de problème de ce côté-là. Je sais pas si vous êtes d'accord, ce que vous en pensez.
Je sais pas, moi, je pense que ça peut être... l'internat, ça peut être la bonne excuse. Tu reviens que pour les vacances scolaires, quand t'es interne.
Ouais.
Donc ça peut être une bonne excuse aussi pour parce que rien que les parents d'Hermione doivent justifier auprès de leurs amis où est leur fille toute l'année. Donc c'est possible d'utiliser le prétexte de l'internat.
Saint Brutus.
Mmh. Ouais, voilà.
Comme les Dursley. Après, je me suis même posé cette question. Personnellement, je suis pas sûr qu'Hermione ait eu des vrais amis à l'école primaire. Mais bon, ça c'est ma théorie. Mais même si t'as des vrais amis, moi je pense pas que être sorcier, ça peut t'empêcher de garder un lien d'amitié avec tes anciens camarades de l'école Moldue. Je pense que c'est possible, et je vais même aller plus loin, je pense que c'est pas forcément nécessaire de mentir. Ça se trouve, il y a des sorciers qui ont avoué à leur ancien camarade d'école, meilleur ami à l'école primaire par exemple, bah écoute, je suis un sorcier ou je suis une sorcière, tu me crois pas, tu me crois ou tu me crois pas. Mais j'ai la tendance à penser que si c'est un vrai ou une vraie amie, la personne va te croire. Et certes, il y a le secret magique, mais le secret magique ne permet pas une perméabilité totale entre les sorciers et les moldus. La preuve, c'est qu'il y a des couples mixtes. Tu peux pas cacher à ta femme ou à ton mari que tu es un sorcier ou une sorcière. C'est impossible. Et l'amitié, c'est pareil pour moi. Je suis sûr qu'il y a des amis qui ont gardé contact avec des sorciers qui ignoraient qu'ils étaient sorciers quand ils étaient amis moldus à l'école.
Oui, oui, c'est probable. Ouais.
À vos fanfictions avec Hermione.
Clairement, mais je me suis aussi un peu posé ce genre de questions et j'ai eu un peu la même réflexion que toi, Jérémy. Je me disais que je pense qu'il y a clairement des sorciers qui ont pu garder des amis ou même se faire des amis moldus et qu'avec les très proches, bah finalement, c'est comme avec la famille. Du coup, ils sont au courant que c'est des sorciers. Mais je me demande juste à quel point est-ce qu'ils sont dans l'illégalité, en fait. Mmh. Parce qu'il y a des dérogations spéciales pour la famille, les conjoints. Du coup, je me dis peut-être qu'il y a aussi des dérogations pour les amis intimes.
Mmh. Ouais. Ouais. Et en même temps, on s'était déjà posé cette question. On ne sait pas s'il y a vraiment une démarche administrative stricte sur les maris et les femmes de sorciers et sorcières. Ça, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les parents d'Hermione peuvent très bien aller sur le chemin de traverse. Par exemple, on a ce genre d'indice, donc il y a une espèce de permission. Mais est-ce que les parents d'Hermione ont signé une décharge, quelque chose de magique, une espèce de truc, si tu respectes pas, t'as une malédiction sur toi, un truc que les sorciers seraient capables de faire, je pense. ça, on ne sait pas.
En fait, est-ce que tu peux emmener ton ou ta BFF sur le chemin de traverse, enfin ton ou ta BFF moldu, quoi, sur le chemin de traverse?
Parce qu'on se posait la question tout à l'heure, on avait dit, bah, tu peux pas détecter que t'es un émoldu juste par l'apparence, mais tu peux pas détecter non plus un moldu juste par son apparence. Il suffit d'habiller ton ami comme un sorcier, et puis ça passe crème, hein, je pense. Hein. En fait, tant que ça crée pas de remous, tant qu'il n'y a pas de problème, tant que si tu as un ami moldu, c'est ton meilleur ami, et qu'il tu lui as avoué et qu'il t'a cru, il ou elle, hein, tant que cet ami-là va pas faire des plateaux télé, va pas sur BFM TV pour faire The Revelation, Big News, il y a des sorciers parmi nous, il n'y a pas besoin d'oublieté, il n'y a pas besoin que le ministère s'en charge, quoi. Tout va bien.
Ouais, enfin, en même temps, est-ce que tu vas sur BFM TV et tu dis que le monde des sorciers existe? Est-ce qu'on va te croire? Est-ce qu'ils t'accueillent sur leur plateau?
Non, par contre, je pense qu'il y a des chaînes YouTube un peu obscures qui seraient capables de t'interviewer.
Oui, c'est ça. Je pense que tu vas dire des complotistes ou le Christ céleste cosmique. Là.
Ah, bah oui.
Sylvain
Durif, si tu nous écoutes. Ça se trouve, il écoute notre podcast.
Viens, on t'invite.
Ah, t'es invité. Non, je sais pas. À discuter.
Oh, premier. Oh.
Je sais pas, j'étais dans l'euphorie, mais là, je me suis dit, je sais pas. Non, mais faire un.
Sylvain Durif? Ah oui, je comprends, non, avec.
Ouais.
Non, je sais pas, je pense au magicien.
Ah, Sylvain Mirouf. Je veux faire un épisode avec Sylvain Mirouf, là, il n'y a aucune hésitation. Par contre, faire un épisode avec le Christ cosmique, je sais pas, c'est balancer le. Je sais pas, c'est une autre dimension de notre podcast, hein, je pense.
Ouais, mais moi, je veux son avis sur le monde des sorciers.
Oui, tu le veux, mais est-ce que tu le veux dans ton émission? Je sais pas.
Ouais.
Mais je pense que le Christ cosmique est par exemple un moldu qui est au courant effectivement que le monde de la magie existe, par exemple.
Bon, sur cette super ref de la pop culture, cette volière se termine. Merci pour vos messages. Et si vous n'avez pas été cité ou si vous voulez nous envoyer vos premiers hiboux, on vous invite à le faire en message privé sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse, alors fréquence sans accent, 934@gmail.com. Ça nous arrive de lire quelques messages aussi, donc vous pouvez nous écrire plutôt que de faire un vocal. Et on a désormais une boîte postale pour nous envoyer des vraies lettres si vous le souhaitez. Les infos sont en description comme tout le reste.
Merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter et de laisser des étoiles sur les applis qui le permettent. C'est également possible de soutenir notre projet avec quelques galions. On a ouvert un abonnement Patreon récemment qui permet aux abonnés d'avoir un accès anticipé aux épisodes ainsi qu'aux aftershows. Autrement, nous avons toujours notre page Tipeee avec les contributeurs qu'on cite avec beaucoup de plaisir comme à chaque fois. Merci à Corsetilou, Mugiwara, Lolax, Julien BD, Laure, Pamela, Lucie, Inni, Chloé, Poki Pims, Virginie, Yonde, Camille, L'Arithmancien, Bispa89, Louison, Kimidoc, Aurélien, Kali et Mathilde.
Et pour nous accompagner, pourquoi pas sur un prochain épisode comme Yasmine aujourd'hui, c'est sur notre serveur Discord que ça se passe. On vous invite à le rejoindre si ce n'est pas encore le cas, et les infos pour candidater sont à retrouver dans le salon La Volière sous la catégorie podcast. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide, bien sûr.
En tout cas, Yasmine, on espère que cet enregistrement t'a plu, que tu regrettes pas de nous avoir accompagnés.
Non, pas du tout. C'était super chouette. Je vous remercie.
Puis on se retrouve tout de suite pour l'after show. On va parler un petit peu des mange-morts.
Oui.
On va voir.
Tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie.
Non.
Nos limites.
Non, ça peut être très court.
C'est parti pour un after show de 4 heures. T'es parti, Yasmine. C'est bon. T'es okay, motivé. Bah,
je fais ma biographie de Barty Croupton.
Va commenter les pizzas. C'est parti. Donc pour les patrons, on se rejoint dès maintenant pour l'after show. Autrement, on se retrouve très vite pour le prochain chapitre de la Coupe de Feu. Il sera question du chapitre 12, 10, je m'avance, Tempête au ministère. À bientôt.
Salut.
Au revoir.